7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 11 juin. À la une de l'actualité, la grève des urgences. Les syndicats descendent dans la rue et espèrent une forte mobilisation. Dossier complet ce matin dans la matinale d'Europe 1. À 7h20, notre enquête sur les maisons de santé. Le gouvernement compte sur elle pour régler une partie des problèmes. Est-ce que c'est la bonne solution ? Élément de réponse dans Europe 1 va plus loin. Puis à 7h45, ce malaise de l'hôpital public avec des manques de moyens, des sous-effectifs. On en parle avec mon invité André Grimaldi, les professeurs émérites à la Pitié-Salpêtrière. Dans l'actualité également, Renault-Nissan au bord du divorce. Après l'échec du rapprochement avec Fiat Chrysler, l'alliance franco-nippone serait en danger. Les informations de Nicolas Barré à 7h15. Les adieux d'un immense champion, le basketteur Tony Parker annonce sa retraite. Il se confie en exclusivité ce matin au micro d'Europe 1, ce sera dans le journal de 8h. 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine avec Jérôme Lacroix, Europe 1, radio officielle de la compétition. On va parler de sport, on va parler de l'actualité, bref, on vous accompagne. On est ensemble jusqu'à 9h. Bon réveil, merci de votre fidélité.
On est bien sur Europe 1, ce mardi 11 juin.
Qu'est-ce qu'on est bien ?
Très bon réveil, il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Quel plaisir de commencer avec vous tous les matins. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actu ce matin.
La traque à Lorient, les forces de l'ordre mais aussi les habitants recherchent le jeune homme qui a fauché deux enfants dimanche. Il est désormais identifié. Le gouvernement veut accélérer le mouvement pour obliger les chaînes de restauration rapide à mieux trier leurs déchets. Certaines sont déjà dans les clous, d'autres pas du tout. Et puis après 18 saisons en NBA aux États-Unis, Tony Parker prend donc sa retraite à 37 ans. Un modèle pour tous les jeunes fans de basket.
Et l'invité politique de la matinale à 8h15, interviewé par Audrey Crespo-Mara, ce sera Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires.
On connaît désormais son nom, son visage. On sait qu'il n'avait pas le permis. Le chauffard de 20 ans qui a renversé et tué un enfant dimanche à Lorient et en a blessé un autre grièvement est donc identifié, mais toujours en cavale. Sa famille l'appelle à se rendre. Et en plus des forces de l'ordre, c'est désormais tout un quartier qui s'est lancé à sa poursuite. Reportage d'Hélène Terzian.
Dans les quartiers avoisinant les lieux de l'accident, les recherches des forces de l'ordre sont discrètes. Mais le visage du suspect, il n'échappe à personne. Il circule partout, raconte cette riveraine. Tout le monde le recherche sur les réseaux sociaux.
Il y a sa photo qui tourne avec son nom, son prénom, son âge. Tout le monde partage. Oh bah sur Facebook, il n'y a que ça.
Ici, tout le monde le connaît, disent quelques jeunes du quartier attenant que le suspect a l'habitude de fréquenter. Certains, comme Nemra, racontent même qu'il y est retourné juste après l'accident.
Il est rentré dans le quartier, il a dit « Est-ce que j'en ai touché un ?» Personne savait de quoi il parlait. Du coup, il y a deux jeunes qui courent vers là. J'y vois les deux petits de notre quartier en fait qui sont tombés par terre. Il y en a un, il est mort. Il est devenu fou, le petit. Il est retourné au quartier. Il a dit « Ouais, il est où ce gars-là » Il était plus là.
C'était un garçon tranquille, poursuit un autre jeune qui insiste. Il doit maintenant dire la vérité.
J'espère qu'il va se rendre. Faut qu'il assume, ouais, voilà. Il a fait ça pour un défaut de permis ou pour conduite sans permis.
Il a détruit sa propre vie et il a détruit celle de deux familles.
La passagère de 21 ans est-elle aussi activement recherchée ? Elle pourrait être la compagne du chauffeur.
Hélène Terzian à Lorient pour Europe 1.
Ce mardi est une nouvelle journée de grève dans les hôpitaux.
Oui, une mobilisation pour réclamer plus d'effectifs et de meilleurs salaires. Tous les personnels hospitaliers sont concernés, particulièrement les urgentistes. Nathalie Chevan s'est rendue au petit hôpital de Pertuis dans le Vaucluse, un établissement en zone rurale totalement saturé où les brancardiers ont entamé une grève dès le mois de février. Depuis, ils ont été rejoints par les infirmiers et les aides-soignants. Nadia est infirmière urgentiste depuis 37 ans. De toute sa carrière, elle n'avait jamais vécu une telle situation.
On a l'impression de ne pas pouvoir faire notre travail correctement, quoi. De ne pas pouvoir passer plus de temps auprès des gens et, qui sont en demande, en fait. Hein. Les gestes, on les fait, on perfuse, on fait des bilans, on sait ce qu'on a à faire, en fait. Hein. On avance le travail le plus qu'on peut. Du mécanisme, quoi, je veux dire, on pique, on n'a pas le temps de passer du temps avec les patients. C'est un peu de l'abattage. Ça devient de pire en pire. Nous n'avons plus de place dans les box. On les met dans le couloir en attente qu'ils soient vus par les médecins. Mauvaise prise en charge des patients. Danger pour les patients. Manque de moyens, on en personne pour nous remplacer, ça devient très pénible.
Une infirmière de l'hôpital de Pertuis au micro Europe 1 de Nathalie Chevance. Et c'est aujourd'hui qu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, doit défendre son projet de loi Ma Santé 2022 au Sénat, avec notamment plusieurs mesures pour lutter contre les déserts médicaux.
Et à 7h45, on recevra André Grimaldi, qui est professeur au CHU de la Pitié-Salpêtrière.
La santé toujours, la Sécu va replonger dans le rouge cette année. Selon la commission des comptes, le déficit pourrait atteindre 1,7 à 4,4 milliards, alors que l'an dernier, il était au plus bas depuis 20 ans. Une rechute liée au ralentissement économique et aux concessions attention accordée aux gilets jaunes.
Europe 1, il est 7h03.
Les chaînes de restauration rapide vont encore devoir faire un effort sur le tri de leurs déchets.
Oui, elles sont convoquées aujourd'hui par Brune Poirson, la secrétaire d'État en charge de la transition écologique. Des fast-food qui produisent 180 000 tonnes de déchets chaque année. Après un premier appel à l'ordre, pour certaines de ces enseignes, le compte n'y est pas. En revanche, d'autres font de vrais efforts, Anne-Laure Jumet.
Il y a d'abord les bons élèves. 4 enseignes ont ainsi présenté des plans jugés satisfaisants en matière de tri des déchets. Selon nos informations, c'est le cas de Subway, Cogent, Exquis et Jour. Mais c'est vrai que 11 chaînes de restauration rapide n'ont pas encore atteint les critères requis par le gouvernement. McDo, Starbucks ou encore Burger King. Quant à KFC, il se distingue comme celui qui ne veut pas appliquer la loi, précise-t-on au ministère de l'écologie. Et c'est vrai que dans ce secteur, il y a encore du chemin à parcourir, comme l'a constaté Paul qui a travaillé 6 mois dans l'une de ses enseignes.
Les emballages étaient jetés dans les mêmes sacs, avec la nourriture, avec les gobelets en plastique, etc. Les produits qui étaient à disposition des clients depuis plus de 5 minutes, on les mettait dans une poubelle spéciale de nourriture et ça finissait dans la grosse poubelle générale. Donc au final, il n'y avait aucun tri.
Alors, les mauvais élèves seront-ils sanctionnés ? Au ministère, on ne veut pas encore annoncer la couleur, mais la volonté, c'est bien de donner un grand coup d'accélérateur. Objectif pour un groupe de restauration rapide, avoir 70% de ses établissements aux normes d'ici la fin de l'année, avant d'atteindre les 100% en 2021.
Anne-Laure Jumet avec Maya Sido.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Alain Zellani. Bilan très lourd pour les noyades l'été dernier, plus 30%. On vous dit pourquoi dans un instant. A tout de suite.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Alain Zellani. Près de 600 personnes sont mortes par noyade en France l'été dernier.
Oui, un chiffre que dévoile ce matin l'Agence Santé publique France. Des décès enregistrés entre le 1er juin et le 30 septembre, c'est 30% de plus qu'en 2015. Les explications de Mélanie Gomez.
Si l'été 2018 est un été record en termes de noyades, c'est d'abord à cause des températures. Selon Météo France, la saison estivale l'an dernier a été classée comme la deuxième plus chaude depuis 1900. Ensuite, dans le détail, sur ces plus de 1600 noyades accidentelles, plus de 65% ont eu lieu dans des cours d'eau ou en mer, pour la majorité dans la bande des 300 mètres, c'est-à-dire très près des côtes. Et puis juste derrière, il y a les noyades dans les piscines privées notamment. Sur les 120 accidents, ce qu'on voit, c'est que les trois quarts concernaient des enfants de moins de 6 ans, et ça, malgré la présence d'un dispositif de sécurité. Dans la majorité des cas, ces piscines étaient bien équipées d'une barrière ou d'une alarme. C'est donc bien par défaut de surveillance que ces accidents sont survenus. 25 enfants sont malheureusement décédés, ce qui montre bien que rien ne vaut la surveillance continue d'un adulte. Néanmoins, ce ne sont pas les enfants qui payent le plus lourd tribut. 4 noyades mortelles sur 10 concernent des personnes de plus de 65 ans à cause d'un malaise ou d'un mauvais niveau en natation. Et ça, c'est un vrai problème dans toute la population. Aujourd'hui, un Français sur 6 déclare ne pas savoir nager du tout.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Emmanuel Macron se rendra jeudi au Sable d'Olonne. Le chef de l'État présidera une cérémonie à la mémoire des 3 sauveteurs de la SNSM, morts noyés en tentant de retrouver un pêcheur disparu. Hier matin, quelques 15 000 personnes avaient participé à une marche pour leur rendre hommage.
Sport maintenant avec la plus grande star du basket français qui tire sa révérence à 37 ans. On parle de Tony Parker.
Oui, après 18 ans en NBA, 4 titres de champion avec l'équipe des San Antonio Spurs. Il prend donc sa retraite. Une nouvelle qui attriste les jeunes joueurs amateurs comme ceux qu'a rencontré Mathieu Bock sur un terrain parisien.
À 3 contre 3, Baptiste et ses copains s'affrontent sur un terrain collé au métro aérien. Tony Parker, ses adolescents en ont parlé toute la journée.
Moi, je suis dégoûté qu'il prenne sa retraite là aujourd'hui parce que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Depuis longtemps, c'est un des premiers joueurs que j'ai connus. J'ai grandi avec lui en fait. J'ai son maillot chez moi, c'est grâce à lui que j'ai découvert un peu la NBA et tout, c'est grâce à lui que je me suis intéressé. Moi je suis assez frustré.
Entre 2 matchs, Théodore Bouengorgedo en reprenant son souffle, pour lui, Tony Parker marquera pour longtemps le basket en France.
J'ai déjà regardé 2-3 vidéos de lui pour m'en inspirer un petit peu. Il a inventé des moves aussi, le flotteur par exemple. En gros, vu que c'est un meneur assez petit par rapport au standard NBA, souvent quand il arrive dans la raquette, il y a quelqu'un de 2m10 qui l'attend. Et au lieu de devoir faire une passe à chaque fois, il a inventé une sorte de double pas, où il lance la balle très haut en fait, et ça fait un grand arc de cercle et ça saute par-dessus le défenseur.
Et Théodore regrette d'autant plus la décision de Tony Parker qu'il l'imaginait encore jouer en NBA pendant 2 ou 3 ans.
Mathieu Bock, Tony Parker qui va maintenant pouvoir apprendre à skier, d'autant qu'il vient d'acheter la station de Villard-de-Lans.
Vous savez jouer au basket ?
Pas du tout. Beaucoup trop petite.
Tony Parker
et skier en jouant au basket.
Hey, elle est en forme là, Céline. C'était le journal d'Hélène Zellani. Merci, à demain.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Il est 7h10, Nico, c'est l'heure de retrouver Carole Ferry sur le terrain.
Bonjour ma chère Carole, où êtes-vous ce matin?
Bonjour Nico. Alors écoutez, d'abord je vais vous expliquer. Et oui, parce que je suis dans un office où ça résonne pas mal en effet. Mm-hmm. Mais j'ai à ma droite un Modigliani, à ma gauche un Braque.
Vous êtes riche?
Non, parce que ces deux tableaux, qui sont estimés en effet à plusieurs millions d'euros, sont totalement faux. Je suis à l'office de lutte contre le trafic de biens culturels, c'est à Nanterre. Alors vous avez ici une équipe de 28 policiers et gendarmes, c'est eux qu'on appelle en premier si un tableau ou une sculpture sont volés. Mais leur vrai défi en ce moment, c'est la lutte contre les arnaques sur Internet, un phénomène en pleine expansion. C'est comme ça que le chef d'équipe, Jean-Luc Boyer, a retrouvé ces deux tableaux de maître qui se trouvent à mes côtés.
Ils ont été saisis dans le cadre d'une enquête judiciaire qui consistait en fait à traquer un individu qui mettait en vente ses biens sur un site bien connu.
eBay, Le Bon Coin aussi, voilà. Etc.
Exactement. Ce qu'ils ont omis de dire, c'est que c'était lui-même qui peignait ses tableaux. Pour cela, il allait faire les brocantes, il achetait des vieilles croûtes à quelques dizaines d'euros et il repeignait dessus pour avoir un semblant d'authenticité qui soit dans son jus. Vous voyez, vous le retournez et là, vous voyez un vieux châssis, une vieille toile. Tout laisse à croire que c'est un tableau qui a été peint vers les années 1910, etc.
Et ça, c'est une fraude qu'on voit en forte augmentation sur Internet?
Oui, contrefaçon sur Internet de tableaux, c'est un véritable fléau qui pourrit le marché.
Ouais, ben enfin, il faut être un peu naïf quand même pour acheter un Modigliani sur Internet, quoi.
Sur eBay, oui.
Sur
c'est
eBay,
sûr.
Un Modigliani. Non, mais franchement.
Pas très cher, en effet.
Hein, mais c'est, les faussaires, ils jouent avec ça, ils jouent avec la crédulité des gens, en vrai.
C'est ça, bien sûr. Trop d'acheteurs aussi pensent bonne affaire avant de penser arnaque. Et c'est ça, bien sûr, le problème. Mais il n'y a pas que les particuliers qui se font avoir. Vous avez même des musées qui se rendent compte qu'ils ont des faux dans leur collection.
Alors, les enquêteurs, ils sont combien? 28 enquêteurs, ils passent leur journée sur Internet, en fait.
En grande partie, oui. Oui, exactement. Alors, ça leur permet de repérer ces arnaques dont on vient de parler, mais aussi parfois de récupérer une œuvre d'art volée qu'ils retrouvent en vente sur Internet. Ce sont des vols de particuliers, vols de musées, c'est de plus en plus rare, cela dit, c'est mieux protégé. Ou vols d'antiquités pillés dans des pays en guerre, comme la Libye, la Syrie. Et ça aussi, c'est devenu l'une des priorités des enquêteurs, parce que non seulement ce sont des objets volés, mais surtout les autorités se sont rendues compte que ce marché participait activement au financement du terrorisme.
Un métier passionnant, lutter contre le trafic de biens culturels à Nanterre. Si vous êtes à côté du Modigliani, demandez s'il fait un prix. Moi, je voudrais bien l'avoir.
Il y a un cadeau à faire.
Je le mets dans mon bureau. Et
écoutez, je vais en discuter avec Monsieur Boyer.
Merci beaucoup. Carole Ferry, tous les matins sur Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, l'édito éco-signé Nicolas Barret. C'est tendu entre le Japon et la France.
Eh oui, on ne se comprend plus entre Français et Japonais. Qu'est-ce on parle évidemment de Renault et de Nissan.
Vous nous direz pourquoi dans quelques instants. À 7h20, en ce jour de grève à l'hôpital public, notre enquête sur les maisons de santé. Le gouvernement mise sur elle pour désengorger en quelque sorte les urgences et lutter contre les déserts médicaux. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour répondre au malaise qui frappe le personnel hospitalier, notamment? Dossier complet dans Europe 1, va plus loin à 7h20. Tout de suite, bon réveil.
Il est 7h13. Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Plus d'effectifs, de meilleurs salaires, revendication de l'intersyndicale qui appelle à la grève aujourd'hui dans les hôpitaux. Agnès Buzyn sera face au sénateur pour défendre son projet de loi Ma Santé 2022. Toujours aucune trace du chauffard qui a renversé deux enfants. Ça s'est passé à Lorient. L'un est mort, l'autre toujours dans un état critique. Âgé de 20 ans, le chauffard n'avait pas de permis. Du football ce soir, Andorre-France, match de qualification pour l'Euro 2020. Les Bleus n'ont jamais perdu face à Andorre, 134e au classement FIFA. Coup d'envoi à 20h45.
Europe 1. Économie maintenant, Nico, c'est l'édito éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec vous, mon cher Nicolas Barret, vous êtes le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors, méfiance d'un côté, sentiment de trahison de l'autre, rien ne va plus entre Renault et son partenaire japonais Nissan.
Et on aurait dû, on aurait dû fêter cette année les 20 ans de l'alliance entre Français et Japonais, mais rien ne va. Pierre par pierre, l'édifice bâti par Carlos Ghosn se délite alors que Renault, Nissan et Mitsubishi devaient constituer le premier groupe automobile mondial. Le dernier coup de tonnerre, c'est une lettre envoyée par le président de Renault, Jean-Dominique Senard, aux Japonais, leur annonçant que Renault refusait de valider la nouvelle gouvernance de Nissan. Motif, les Français trouvent trouve qu'ils ne sont pas assez bien représentés dans les nouvelles instances de contrôle de Nissan. Colère immédiate des Japonais qui y voient une trahison, car avec 43% du capital, Renault peut bloquer. Bref, c'est l'impasse.
Pourtant, on aurait pu croire que l'arrivée d'un nouveau patron chez Renault aurait permis de tourner la page compliquée des années Ghosn.
Oui, mais en fait, ça s'est vite gâté. Il y a eu un premier coup de tonnerre en avril quand le projet de fusion Renault-Nissan a ressurgi. Les Japonais ne voulaient pas en entendre parler, c'était un chiffon rouge. Puis il y a eu un deuxième coup de tonnerre quand Nissan a été mis au courant des discussions qui avaient eu lieu entre Renault et Fiat Chrysler sans qu'ils soient au courant. Énorme tension entre les Français et les Japonais qui s'est traduite d'ailleurs par le refus de Nissan d'approuver l'opération, ce qui a contribué à la faire capoter. Et puis donc maintenant, ce troisième coup de tonnerre avec Renault qui montre ses muscles vis-à-vis de l'état-major de Nissan. Je vous le dis, rien ne va.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était à Tokyo ce week-end. Il a réaffirmé qu'il souhaitait le renforcement de l'alliance. Là, on est dans la politique.
Oui, et puis après tout, c'est aux industriels et pas aux ministres de s'en occuper. Ils sont plus compétents, ils sont plus au cœur des dossiers. Ils savent bien l'intérêt qu'il y a à coopérer alors que cette industrie automobile vit sa plus grande révolution depuis l'invention du moteur à explosion. Mais dans les affaires, et on en a la démonstration sous les yeux, une alliance ne peut pas marcher sans contrôle. C'est tout le problème de Renault, qui, même avec 43% du capital, ne contrôle pas Nissan. Il n'a pas les clés du pouvoir. Il ne peut rien imposer. C'est pour cette raison que la situation est grave. C'est-à-dire que soit les Français et les Japonais arrivent à s'entendre volontairement, soit tout l'édifice de l'alliance s'écroulera, ce qui serait une très mauvaise nouvelle, évidemment, pour Renault.
Si on se sépare, on peut vivre tout seul ?
Mais c'est beaucoup plus difficile.
Nicolas Barré, l'édito éco.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, qui s'intéresse ce matin, Nikos, à la grève des urgentistes.
Des dizaines d'arrêts maladie, des burn-out en série dans les services d'urgence surchargés. La grève d'aujourd'hui, appelée par 4 syndicats, devrait être massive. Le gouvernement tente d'y répondre en multipliant les maisons de santé, des structures censées désengorger les urgences et lutter contre les déserts médicaux. Bonjour Pierre Bulot.
Bonjour Nikos.
Tout d'abord, c'est quoi une maison de santé ?
Alors, il y a une règle. C'est un bâtiment avec minimum 2 généralistes et 1 spécialiste, kiné, dentiste, podologue, parfois aussi des infirmiers. L'avantage pour les médecins, c'est un partage des charges, secrétariat et loyer du cabinet, un partage des gardes de nuit aussi. Pour les patients, c'est un meilleur suivi et retrouver aussi une offre de santé qui manque dans certains territoires.
Il y a combien de maisons de santé aujourd'hui en France ?
De plus en plus. De 20 en 2018, on est passé à plus de 1200 aujourd'hui. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, en a promis 2000 d'ici la fin du quinquennat. Si sur le papier ça ressemble à une solution idéale, dans les faits, construire des maisons de santé ne résout pas tout non plus.
20, c'était en 2008 ou en 2018 ?
2008.
2008. Alors c'est en effet ce que vous avez constaté dans la Nièvre. Hein. À Varzy, dans l'une des 20 premières maisons de santé de France. On écoute votre reportage, Pierre Bulot.
Une plaque de verre affiche toujours « Maison de santé » sur la façade du bâtiment. Pourtant, ça fait plusieurs années qu'à Varzy, le label a été retiré par l'État. Sandrine Aubé et Aurélie Ciudad, deux infirmières libérales, font la visite.
Donc là, on se trouve dans le cabinet du kiné.
Il y a 10 ans, c'était des médecins.
Tous les deux partis en retraite, mais impossible de trouver des successeurs. Idem pour le dentiste, son bureau au fond du couloir reste désespérément vide. Le retrait du label Maison de Santé ici a entraîné l'arrêt des financements de l'État et donc aussi la suppression d'un poste de coordinateur. Tout ça impacte la qualité des soins d'après les infirmières.
C'est vrai qu'au tout début, quand on travaillait avec eux, c'était juste formidable. Que du coup, on avait des médecins sous la main. Dès qu'on avait un doute, besoin d'une ordonnance, ils étaient là. Enfin voilà, on avait des réunions toutes les semaines pour parler des patients.
C'était plus fluide, plus agréable. Oui, non, on ne travaillait pas du tout dans les mêmes conditions. Là, on est toujours en train de jouer au docteur. On court après les médecins pour avoir les consultations, les choses comme ça.
Et est-ce que vous envoyez plus qu'avant des gens aux urgences aujourd'hui par manque de médecins et...
Ah oui. De toute façon, c'est pas compliqué. On regarde qui travaille pas. On sait qu'on a quasiment 3 jours sans personne, donc c'est le 15.
Un cercle vicieux qui ne peut être arrêté que par l'arrivée d'un nouveau généraliste que les infirmières n'attendent même plus.
Et on le comprend, Pierre. Le vrai problème, en fait, c'est la pénurie de médecins.
Oui, résultat, certaines villes se font même concurrence pour attirer les généralistes, raconte Jamy Siméon. Il est président de la communauté de communes Onivernais-Val-d'Yonne.
Ça peut passer par un loyer gratuit, voire un équipement gratuit, voire un logement gratuit, voire le fait de le salarier. Enfin, toutes les formules sont possibles, imaginables, pour attirer des médecins. Mais c'est un coût pour la collectivité, quoi. Donc ça veut dire qu'en zone rurale, les habitants, s'ils veulent un médecin, il faut qu'ils payent. Et quand on parle de gratuité, c'est jamais gratuit pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est avec les impôts des gens qu'on fait venir un médecin, contrairement à d'autres endroits du territoire national.
Mais alors, quelle solution reste-t-il, Pierre, pour régler le problème des déserts médicaux et l'engorgement des services d'urgence ?
D'abord, on forme plus de médecins. La loi santé prévoit la fin du numerus clausus. On attend 20% de généralistes en plus, mais dans 10 ans, le temps de les former. 400 médecins volontaires sont également en cours de recrutement pour travailler dans les zones rurales. Il y a aussi le développement de la télémédecine. Sauf que ce n'est pas suffisant pour l'Association des maires ruraux de France. Mmh. Elle propose carrément d'obliger les jeunes médecins à s'installer au moins 2 ans en sortie d'études dans les déserts médicaux.
C'est une option. Merci Pierre Bulot pour ce dossier complet Europe 1. Plus loin, réalisé avec l'aide de Justin Morin et de Mélanie Gomez, le malaise à l'hôpital public. On y reviendra tout à l'heure à 7h45 avec mon invité, le docteur André Grimaldi, les professeurs émérites au CHU de la Pitié-Salpêtrière.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Anicet Mbida arrive dans un instant, il va nous parler du langage des bébés. Comment comprendre un bébé qui pleure ? A tout de suite.
Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anicet Mbida Nikos.
C'est déjà arrivé aux parents, aux jeunes parents et peut-être même à ceux qui ont des enfants en bas âge, qui nous écoutent ce matin, qui sont en train de se préparer. Peut-être que le petit n'a pas dormi, il a pleuré toute la nuit. Comment comprendre un petit qui pleure ? Est-ce qu'il a mal au ventre ? Est-ce qu'il a mal aux dents, aux oreilles ? Alors apparemment, Anicet Mbida a trouvé des chercheurs qui travailleraient sur un décodeur de pleurs de bébés. Oui. Vraiment ?
Oui, alors c'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre d'outils. Il y a même des applications sur téléphone portable qui prétendent traduire les cris du bébé, mais c'est jamais très sérieux.
Arnaque.
Non, cette fois, c'est une équipe de chercheurs de l'université de Northern Illinois qui s'y est attelée en utilisant de l'intelligence artificielle. Alors les détails de leur méthode viennent d'être publiés dans une revue scientifique, donc c'est déjà beaucoup plus rigoureux. Et c'est amusant parce que ça fonctionne exactement comme un traducteur de langue étrangère.
Dingue.
Donc dès qu'il entend un drôle de dialecte comme... Et ça, il faut le traduire par changer la couche.
Ouais.
Ou si c'est. Tiens, on va voir si vous savez. Qu'est-ce que c'est que ça,
j'ai faim, ça.
Exactement, ça c'est qui la faim. Et si en revanche, on entend.
Oh, quelle angoisse. Là, il a mal.
Ah, là, c'est très explicite.
Arrêtez, ça me stresse, j'ai l'impression d'être chez moi.
C'est horrible.
Là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas bien.
Recouchez-le.
Non, mais là, il a très mal. Il faut surtout pas le recoucher.
Est-ce que ça marche ? Parce que la vraie question, c'est qu'avec ce décodeur, on est en train de scanner la source de l'expression originelle de l'être humain. Parce qu'on n'est même pas dans les langues. Parce que ça peut être un enfant espagnol, chinois ou russe. Mm-hmm. Mais l'expression est la même.
Oui,
qui est intéressant.
Oui, mais il y a pas mal de méthodes aujourd'hui. Il y a par exemple la méthode Dunstan qui est capable justement de comprendre ces petites variations qu'il y a chez tous les enfants. Alors moi, j'ai pas testé, mais il se prépare à lancer des tests cliniques, des essais cliniques sur cette méthode.
D'accord.
Parce que leur objectif, c'est pas seulement de décoder les petits problèmes de tous les jours, c'est de savoir quand le bébé est vraiment malade, quand il est vraiment en souffrance. Et c'est pour ça que leurs premiers exercices, dans un premier temps, ils vont se consacrer sur l'hôpital. Parce que les petits bouts de chou, quand ils ont mal, ils peuvent pas sonner, ni appeler à l'aide, ni appuyer sur l'alarme. Ils ne savent que pleurer, donc ils font un outil pour savoir quand ils vont vraiment mal.
Et les parents se sentent évidemment coupables parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a.
Ouais.
C'est ça. Donc on essaie toutes les méthodes. Comment vous faites, vous, quand il pleure, le vôtre ?
J'essaie de le rassurer, de le mettre, prendre contre moi le plus fort. Mais bon, parfois, on est démunis.
C'est un super papa, Anicet Mbida. C'est un super journaliste. Merci, Anicet. C'était l'innovation du jour.
Avec EDF, bâtiment durable, éclairage intelligent, mobilité électrique. Avec EDF, devenons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur EDF.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, la météo. Laurent Cabrol.
Et ce soir, la France affrontera l'Andorre.
Oh là là.
Quel temps fait-il ?
Oh, m'en parlez pas. Qu'est-ce m'en parlez pas. Il fait 3 degrés.
Il aime pas.
Je crois qu'il a faim.
Il fait 3 degrés et on est à 1000 mètres en dehors. Quand on dort la vieille, c'est à 1000 mètres. 3 degrés pour le matin. Il en fera 7 dans l'après-midi. Ouais. Et tenez-vous bien, il neige au pas de la case qui est à 1000 mètres au-dessus d'Andorre. C'est-à-dire que sur Andorre, on a un petit parfum des jeux. Voilà. Fermons la parenthèse. Donc il fera froid, on a compris. Dans le courant de la journée, sur l'ensemble de la France, ce sera un temps souvent pluvieux, fréquemment pluvieux. J'entrerai dans le détail tout à l'heure. Mais franchement, dites-vous que même si vous avez des éclairs éclaircies, vous aurez forcément des averses. Alors, certaines régions sont en marge des averses. Par exemple, Paris, c'est en marge des averses. Alors, bon, les averses peut-être vers 15-16 heures. Je pense plutôt 17-19 heures.
Vous voyez, un peu de soleil,
on ne sait pas encore, mais profitons de toute manière de la matinée. Et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et puis, Côte d'Azur et Corse, j'en parlerai aussi parce que là, c'est la forte chaleur avec des 30 degrés. Oh, hier, il faisait 33 degrés à 7 heures du matin du côté de Bastia.
C'est arrêtez, grand incroyable. Fou. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À tout de suite, plutôt à tout à l'heure, dans quelques minutes.
Nous sommes le mardi 11 juin, il est 7h30.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
30 secondes de retard, mais vous êtes là. Enfin, c'est nous qui sommes en retard. Merci Céline Kallmann, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Ils n'ont pas choisi la vie de leurs parents, mais en ont payé les tristes conséquences. 12 enfants de djihadistes français, dont 10 orphelins, ont été rapatriés en provenance du nord-est de la Syrie hier. Le plus âgé a 10 ans, certains d'entre eux seraient malades. Ils ont tous été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, Jeanne Bergaoui.
Ces 12 enfants vivaient pour la plupart dans le carré des orphelins des camps d'Al-Hol et de Roj dans le nord-est de la Syrie. D'après nos informations, il y a deux fratries de 2 enfants, notamment 2 frères et sœurs qui ne sont pas orphelins, ce sont les seuls. Leur père, Yassine Sakam, originaire de Lunel, vient d'être condamné à mort en Irak. Leur mère, emprisonnée en Syrie, a donné son autorisation pour leur rapatriement. Sans elle, c'est l'une des rares à avoir pris cette décision, d'après les avocats en charge de ces dossiers. Celles qui acceptent de faire rentrer leurs enfants peuvent s'exposer à des représailles d'autres combattantes plus radicalisées. Une fois arrivés sur le sol français, ces enfants ont été auscultés par un médecin, puis pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est elle qui va les placer dans des familles d'accueil volontaires. Selon le Quai d'Orsay, il y aurait encore 450 Français dans le nord-est de la Syrie, dont la moitié seraient des enfants.
Jeanne Bergaoui pour Europe 1. Des élus seront présents ce matin à l'entrée de l'école où étaient scolarisés les 2 garçons percutés dimanche matin par une voiture à Lorient. L'un d'eux, âgé de 10 ans, est décédé. Le chauffard qui a pris la fuite a été identifié. Il a 20 ans. Il ne s'est toujours pas rendu à la police qu'il recherche depuis près de 48 heures. Au moment du drame, il était accompagné d'une jeune femme de 21 ans, elle aussi toujours introuvable. Emmanuel Macron présidera après-demain une cérémonie au Sable d'Olonne pour rendre hommage aux 3 sauveteurs bénévoles morts noyé lors d'une intervention pour sauver un pêcheur. Hier, 15 000 personnes ont participé à une marche dans la ville.
Des parents et une association saisissent aujourd'hui le Conseil d'État.
Oui, ils veulent obliger les pouvoirs publics et les fabricants de couches à dévoiler le nom des marques concernées par la présence de produits toxiques. Fin janvier, vous vous en souvenez peut-être, l'Agence nationale de sécurité sanitaire révélait un rapport alarmant sur les substances présentes dans les couches jetables à l'intérieur des dérivés de pétrole, du glyphosate. Mais jusqu'ici, aucun nom de marque n'a été dévoilé. Quentin Guimain, papa d'une petite fille de 20 mois, veut que ça change. Marguerite Lefebvre vient de le joindre pour Europe 1.
L'État est au courant. Il y a eu l'enquête de 60 millions de consommateurs qui a démontré que des couches contenaient des produits chimiques dangereux pour la santé des enfants. On a eu ensuite ce rapport de l'ANSES en janvier 2019. On parle de marques qui contiennent des produits quand même cancérigènes, mutagènes, des perturbateurs endocriniens, des produits interdits en Europe depuis plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, on ne connaît pas le nom des marques concernées. On ne sait pas de quelle couche on parle. S'il y a matière à s'inquiéter, il serait temps d'agir. Aujourd'hui, on est en juin. Il ne s'est toujours rien passé. Donc effectivement, il semblerait que la justice soit le seul moyen de faire avancer les choses dans ce pays. Donc on y va. Voilà, on va à la justice parce qu'il semblerait que ce soit la seule possibilité de faire avancer les choses.
Quentin Guimain, joint par Marguerite Lefebvre. Dans l'actualité également de ce mardi, la mobilisation se poursuit pour les personnels des hôpitaux. 90 services d'urgence sont désormais en grève. Les syndicats promettent une très forte mobilisation dans la capitale. Un défilé prévu devant le ministère de la Santé pour réclamer une hausse des effectifs et des augmentations de salaire. Entre 1,7 et près de 4,5 milliards d'euros, le trou de la Sécu va se creuser cette année encore selon la commission des comptes. Conséquence notamment du ralentissement économique et des concessions faites aux gilets jaunes. Air France veut supprimer un tiers de ses effectifs en Corse, 64 postes selon le Figaro. Un plan de départ volontaire est prévu par la direction. La compagnie a perdu 12 millions d'euros en 2018 sur ses lignes vers la Corse. Et puis un accident rarissime et spectaculaire hier soir à New York. Un hélicoptère s'est écrasé sur un immeuble dans le quartier de Manhattan. Mais le pilote a voulu se poser. Il y avait un épais brouillard. L'appareil s'est crashé. Le pilote n'a pas survécu.
Un rappel des 7h34.
Bon, cette fois, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Hein. Les Bleus affrontent l'équipe d'Andorre ce soir.
Quatrième match de qualification pour l'Euro 2020. Les Bleus qui ont perdu contre la Turquie 2-0 lors de leur dernière rencontre. Alors pour ce dernier match avant les vacances, une défaite est impensable et Didier Deschamps leur a bien fait comprendre. Cyril de la Morinerie.
L'analyse du naufrage en Turquie a été rapide. Aucun tir cadré, une première depuis 10 ans. En revanche, le sélectionneur a étudié Andorre, pourtant composé de joueurs amateurs comme comme un match de Coupe du Monde. Hier soir, à l'entraînement, Didier Deschamps a même brouillé les pistes, sans doute pour ne pas dévoiler sa composition d'équipe. Le patron des Bleus a également échangé avec ses joueurs en leur demandant de montrer un autre visage. C'est une question d'honneur, les Bleus ont un statut de champion du monde à défendre, mais aussi une qualification pour l'Euro à décrocher, a rappelé Didier Deschamps.
Faire le job et venir chercher les 3 points, ils sont aussi importants ces 3 points que les 3 points qu'il y avait en Turquie. En Turquie, on ne peut pas revenir dessus. On a un dernier effort collectif important à faire avant qu'ils basculent sur le repos dont ils ont bien besoin.
Mais avant de se prélasser sur les plages de sable fin près des cocotiers, c'est dans un petit stade de 3300 places au pied des montagnes et dans une ambiance glaciale que les Bleus tenteront de se racheter, loin des 30 degrés affichés en Turquie. Nous sommes en juin, de la neige pourrait tomber pendant la rencontre. Andorre la Vieille, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Ouais, c'est ce que nous disait tout à l'heure Laurent Cabrol. Il fait la une du journal L'Équipe et 13 pages lui sont consacrées. Le basketteur Tony Parker prend sa retraite après 20 saisons, dont 18 années passées aux États-Unis. Le quadruple champion NBA est fier de ce qu'il a accompli. Vous l'entendrez dans le journal de 8h sur Europe 1.
Merci Céline Kallmann.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, avec vous Jean-Michel Apathy, oui, on va parler de quoi ?
Le conseil municipal de Paris s'est réuni aujourd'hui et va voter un jour de la semaine la gratuité des transports publics pour les enfants parisiens. Alors on se dit, ah, c'est une bonne nouvelle, mais en fait, une bonne nouvelle cache souvent une nouvelle moins bonne pour d'autres personnes. Il y a une petite entourloupe dans l'histoire.
Je voudrais écouter votre analyse, tiens, justement. Axel de Tarlé.
Ah, moi, c'est une grosse entourloupe qui tâche, c'est Donald Trump. Bien. Qui s'en prend aux 20 Français qu'il veut surtaxer.
Tâche 20, vraiment, grande voilà. Forme ce matin. Apathie tarlée, le verbe et...
le verbe haut.
Oui, et la verbe.
Ah. Et la verbe, bravo.
Bravo, bon, non.
Bon réveil à tous, il est 7h36.
À tout de suite.
Il est 7h39, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathie.
Ce sera l'une des mesures fortes que le Conseil de Paris votera cette semaine. On parle de la gratuité des transports en commun pour les enfants de 4 à 11 ans. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Jean-Michel Apathie ?
C'est une bonne idée démagogique d'Anne Hidalgo, qui est maire de Paris depuis 2014 et, ça n'a échappé à personne, surtout pas à elle, candidate à sa succession en 2020. Alors, dans les faits, le Conseil de Paris, cette semaine, va voter la gratuité des transports pour les familles qui ont des enfants scolarisés dans les maternelles et dans les primaires. Le remboursement du ticket de transport à partir de septembre représente 360 euros par an et par enfant. Donc, ça n'est pas rien, absolument. Ouais. Et pour les collégiens et les lycéens, ce sera la moitié, 50% du ticket de transport sera remboursé. Donc, on dit merci Anne Hidalgo, qui est maire de Paris depuis 2014 et qui est candidate à sa réélection en 2020. Alors, je suis un peu lourd. Je suis un peu lourd parce que, allez-y. En fait, la gratuité, ça n'existe pas. Ça, c'est un argument mensonger. Tout ce qui est gratuit est payé par quelqu'un. C'est une vieille règle. Je pense qu'Axel ne me contredira pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Alors, quand et comment, c'est là qu'est la subtilité, la ficelle. Parce que, par exemple, le Conseil de Paris, là, qui va voter la gratuité des transports pour les enfants, il va provisionner 50 millions d'euros pour rembourser les tickets. Et ces 50 millions d'euros, tôt ou tard, quelqu'un les paiera, alors après l'élection municipale de 2020, évidemment, pas tout de suite, mais on peut augmenter les PV de 1 ou 2 euros des automobilistes. De toute façon, ils payent tellement les automobilistes qu'un ou 2 euros de plus, on s'en moque. On peut dire aux agents qui mettent des PV, mais mettez-en un peu plus, parce qu'il faudrait rentrer de l'argent dans la caisse. Parce que l'argent, on l'a dépensé. Et hop, on met un petit peu plus de PV. Les scooters, ça fait des années que toutes les villes de France veulent faire payer le stationnement des scooters. Un jour, on va y arriver et ça remboursera un peu la cagnotte. Et puis, au bout du bout, si on augmente les impôts locaux de 1 ou 2 euros, eh bien, ça remboursera aussi ces 50
millions
d'euros.
Vous feriez un très bon maire. Hein.
Ce que je veux dire, c'est que trop souvent, les responsables publics, parce que là, on parle de Paris, Anne Hidalgo ne nous en voudra pas. C'est un exemple, c'est pour la pédagogie.
On entend.
Suis sûr qu'elle ne sera pas en colère après cette chronique. Mais trop souvent, l'argent public est utilisé comme une ficelle pour appâter l'électeur. On ne lui dit pas tout. On ne lui raconte que la moitié de l'histoire. Et puis après, on voit ce qui se passe. Regardez, on apprend que la sécurité sociale va être en déficit parce que toutes les promesses du président Macron, eh bien, il n'y en a aucune qui est financée. Mais ça sera financé un jour, d'une manière ou d'une autre. Donc, cette chronique a une vocation pédagogique parce que nous sommes tous pour la pédagogie du citoyen. Et la maxime du jour, c'est la gratuité, ça coûte cher.
La gratuité n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est ce qu'on doit entendre ce matin, évident. Jean-Michel Apathie.
Et souvent les mêmes, d'ailleurs.
Et on ne nous dit pas tout, comme dirait Anne Romanoff. Axel de Tarlé. Donald menace de surtaxer le vin français. Oui, plus Donald, parce que...
Donald, c'est un copain.
Il y en a qu'un aujourd'hui. On parle plus de Donald. Plus qu'un, ouais. Voilà, c'est, on parle du président américain. Pourquoi il s'en prend maintenant au vin français?
Eh bien écoutez, nous sommes apparemment sa nouvelle cible. Et Donald Trump vise juste là en l'occurrence parce que les vins et spiritueux, c'est 13 milliards d'euros à l'export. C'est le deuxième plus gros excédent de notre balance commerciale après l'aéronautique. Et les Américains, en matière de vin, sont nos premiers clients à l'export. Ils achètent pour plus de 3 milliards de vins français chaque année. Et Donald Trump, donc logiquement, se plaint de ce que les échanges, c'est vrai, ne sont pas équilibrés à cause, dit-il, des taxes. Et c'est vrai qu'en Europe, les importations de vin sont deux fois plus taxées qu'aux États-Unis. Il faut que ça change, dit Donald Trump. Ainsi fonctionne le président américain qui veut réduire, vous le savez, l'énorme déficit commercial des États-Unis. 620 milliards de déficit l'an dernier. Donc méthodiquement, pays par pays, Donald Trump cible les points forts de chacun. Alors en Allemagne, il va cibler les voitures, les Mercedes, les BMW. En France, donc, il cible notre vin.
Et puis, bien sûr,
voilà, il cible tous les produits chinois, bien sûr, qui sont accusés d'envahir les États-Unis.
Mais en réalité, Donald Trump, il fait quoi? Il défend les intérêts de son pays, en fait, tout simplement.
Oui, mais là, avec l'Europe, en l'occurrence, il se trompe de combat. Parce que la relation est équilibrée. Parce que côté américain, ce qu'on ne dit pas, c'est que vous avez les GAFA qui sont en Europe. Google, Apple, Facebook, qui gagnent énormément d'argent en Europe.
On essaie de les faire payer aussi.
Oui, mais enfin, eux, ils gagnent en attendant énormément d'argent en Europe. Ce qui fait que, si vous regardez les échanges, la balance des paiements, comme on dit, Europe-Amérique, elle est quasiment à l'équilibre. Et donc, vous voyez, à chacun ses points forts. L'Amérique, c'est Internet. Bah, en France, c'est le vin. Et s'en prendre au vin français, c'est absurde. Parce que si les Américains achètent du vin français, c'est pas parce qu'il est peu taxé. C'est parce qu'il est considéré comme le meilleur du monde. Et que les consommateurs américains en veulent. Ils veulent acheter des grands vins français. Et donc, si on écoutait Donald Trump, le consommateur américain devrait uniquement se contenter de vins américains. Exactement comme si en France, on disait, tiens, on va interdire les Apple, les téléphones Apple, parce qu'il y en a trop, et on va réintroduire de force le Minitel 100% français.
36-15, qui va trinquer, en fait, c'est toujours la même histoire. Axel de Tarlé, pour le Zoom Echo.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
La grève des urgences, le malaise du personnel hospitalier, comment sauver l'hôpital public? Dans un instant, je reçois André Grimaldi, il est professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et on en parle ensemble. À tout de suite.
Très belle matinée sur Europe 1. Il est 7h45. Il est 7h46. Les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Le trou de la sécurité sociale devrait encore se creuser cette année entre 1,7 milliard et près de 4,5 milliards selon la commission des comptes. Conséquence, entre autres, des mesures annoncées lors de la crise des gilets jaunes. Le chauffard qui a fauché deux jeunes enfants provoquant la mort de l'un d'entre eux dimanche à Lorient reste introuvable. Il a été identifié, c'est un jeune homme de 20 ans. Il roulait sans permis. Une jeune femme de 21 ans qui l'accompagnait au moment des faits est aussi recherchée activement. Fin de carrière pour Tony Parker, 18 ans en NBA. Le basketteur a remporté 4 titres de champion des États-Unis. Il avait aussi remporté l'Euro 2013 avec les Bleus.
Europe 1. Alors que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, défend son projet de loi Ma Santé 2022 au Sénat, les personnels hospitaliers sont appelés à manifester aujourd'hui. L'hôpital public craque de partout. Nikos, vous recevez ce matin le docteur André Grimaldi, professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière et ancien chef du service de diabétologie.
Bonjour professeur André Grimaldi.
Bonjour.
Alors on ne découvre pas le problème ce matin sur Europe 1. Récemment encore, nous étions en matinale spéciale au CHU de Lyon. Ça fait des années qu'on entend, qu'on écoute les urgentistes et l'hôpital public se plaindre d'un manque de moyens. Mais là, on a le sentiment, professeur, qu'on a atteint un point de rupture. Comment vous l'expliquez ?
On est au carrefour de deux crises. La crise de la médecine de ville, qui, pour des raisons historiques, n'a pas construit un service de médecine de proximité. Alors c'est en route, avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, avec les centres de santé, où médecins et infirmières travaillent ensemble. En équipe. Et puis d'autre part, la crise de l'hôpital, qui est une crise globale, que depuis maintenant plus de 10 ans, on traite comme si c'était une entreprise, avec un objectif de rentabilité. Donc il faut faire toujours plus, avec des moyens qui doivent être contraints. Bon, c'est-à-dire on diminue les infirmières, on ferme des lits. Alors l'hôpital, l'urgence est au carrefour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui viennent parce qu'ils ne trouvent pas de réponse à leur demande en ville, alors qu'ils n'ont pas de soins très compliqués qui pourraient être faits en ville. Donc il y a en gros un peu moins de la moitié des patients qui vont aux urgences qui pourraient être soignés théoriquement en ville. Si on avait construit un service de médecine de proximité, ce que veut faire la loi santé. Et d'autre part, plus grave encore, une fois qu'ils sont hospitalisés, on ne trouve pas de lit pour les coucher et ils restent aux urgences, parfois plus de 24 heures.
Donc vous êtes en train de nous dire, professeur Grimaldi, qu'on est dans une sorte de dogme, il faut diminuer le nombre de lits par service afin d'être rentable, c'est ça ?
Oui, oui, il y a un dogme. Hein, comme il y a eu à un moment donné le numerus clausus, il fallait diminuer le nombre de médecins, on avait une pléthore de médecins en France.
D'accord.
Jusqu'en 2000, hein, on avait dit ça. Tout le monde disait ça.
Donc bon, on en a plus.
Tout le monde. Là maintenant, il y a trop de lits.
Et maintenant, on dit qu'il n'y a plus de médecins aussi. On écoutait
maintenant, on dit il n'y a plus de médecins.
Le ministre de la Santé,
et puis on a importé des médecins étrangers. Hein. Mais rappelez-vous qu'on a payé des médecins pour qu'ils partent en retraite anticipée. Mmh. Hein. Alors maintenant, c'est les lits. Alors évidemment, on regarde la Suède. La Suède a moitié moins de lits que nous. Mmh. Mais on ne regarde pas l'Allemagne qui a 50% en plus, ou le Japon qui a 100% en plus.
D'accord.
C'est un système dans son ensemble. Donc on a diminué les lits. Les lits sont occupés. Vous êtes aux urgences. Moi, j'ai eu une acidocéto, c'est-à-dire une complication grave du diabète. Mmh. Chez une jeune femme de 35 ans. Eh bien, elle est restée plus de 24 heures aux urgences. C'est-à-dire qu'aux urgences, l'infirmière, elle voit les malades qui arrivent et puis elle doit soigner l'acidocétose diabétique. Mon collègue me disait, il y a des malades qui ont leur pontage coronarien alors qu'ils sont sur un brancard et ils reviennent ensuite sur le brancard.
C'est une situation un peu grave.
Qu'il y a plein d'études maintenant, plusieurs études internationales et nationales qui montrent qu'il y a une corrélation entre les brancards, le taux sur de brancards et de temps sur le brancard
et la mortalité
intra-hospitalière.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'arrive en tant que patient dans un hôpital et que je vais aux urgences et que tout est surchargé, je suis réellement en danger aujourd'hui ?
Bah, vous avez un risque augmenté. Alors vous allez dire, vous n'avez pas un danger immédiat, etc. Mais vous avez un risque statistiquement augmenté de morbi-mortalité. C'est-à-dire que vous serez hospitalisé plus longtemps et puis si vous êtes vieux, fragile, avec une mortalité accrue. Hein, si vous êtes en insuffisance cardiaque et que vous avez 75 ans, eh ben, si vous passez votre temps sur les brancards, oui, vous avez un risque de mortalité accrue.
Et ça veut dire qu'avec l'été, ça va s'aggraver parce que les urgentistes annoncent une augmentation plus 6%, je crois, de la mortalité cet été. On ne va pas jouer les cassandres, on ne va pas dire que tout sera difficile cet été, mais c'est un fait. C'est ce que vous me dites, professeur.
Ben, écoutez, moi, je discute avec mes collègues urgentistes, avec le chef de service d'urgence de la Pitié-Salpêtrière, grand hôpital, avec le doyen même de cet hôpital qui était un ancien service d'urgence. Il me dit, on n'a plus la marge de manœuvre. C'est-à-dire que si on a un problème de santé, une épidémie aiguë, on ne peut plus faire face. L'hôpital a fait face quand il y a eu la canicule. Il a fait face quand il y a eu l'épidémie de sida. Bon, là, on ne peut plus faire face, il n'y a plus de marge. Donc, l'hôpital qui est de recours, hein, la première ligne, c'est évidemment le sujet de la loi. La première ligne, sont les médecins généralistes, les infirmières et les pharmaciens. Ça demande à être organisé, c'est ce que veut faire la loi, c'est une bonne chose, mais ça demandera 5 ans, 10 ans. Hein.
Un peu de temps,
on l'a pas fait depuis 45.
C'est ce que dit Agnès Buzyn dans les pages, dans les colonnes de nos confrères de Libération. Hein. Elle dit que, de toute manière, elle a fait des annonces pour les urgences, primes de 100 euros, par exemple, pour les infirmiers et les aides-soignants, que les problèmes ne datent pas d'hier, que la loi Ma Santé 2022 devrait y répondre, mais elle souligne qu'il faut du temps.
Oui, alors ça c'est une chose. Il faut
un paradoxe, on est dans l'urgence, mais il faut du temps.
Non, il faut du temps pour changer le système de santé et dire je vais soigner l'hôpital en soignant la ville.
Ouais.
Bon, ça m'a demandé beaucoup de temps. Par contre, il y a des mesures d'urgence.
C'est là,
par exemple, les lits, ce qu'on appelle l'aval des urgences. C'est une fois que vous êtes hospitalisé, une fois qu'on a fait votre diagnostic aux urgences, vous ne devriez pas rester sur un brancard plus de 2 heures. C'est inadmissible, tout le monde sera d'accord. Vous arrivez aux urgences, on a besoin de faire des examens, on a besoin de faire un scanner. Une fois que c'est fait, que l'urgentiste ou l'infirmière d'urgence téléphone pour trouver un lit, faut pas qu'elle ait 18 coups de téléphone à passer. Bon, donc là, alors ça suppose qu'il y ait des lits qui sont créés, polyvalents, de médecine interne, qu'on appelle médecine polyvalente, qui accueillent, et en dimension suffisante,
de la place.
Donc on arrête de fermer.
Hein. Si vous êtes...
Il faut que les infirmières, quand même en France, il faut que vous sachiez quand même, il faut que les auditeurs sachent. Une infirmière en France qui débute gagne 1600 euros. On est 26e. On dit qu'on dépense beaucoup pour la santé, ce qui est vrai. Qu'il y a des gaspillages, c'est bien vrai. La pertinence des soins.
Donc il faut augmenter les infirmières, si on comprend bien.
Aides-soignantes et infirmières.
Et quoi d'autre ?
Les médecins, ça met du temps. Mais infirmières et aides-soignantes, et alors non seulement augmenter infirmières et aides-soignantes, mais il faut qu'il y ait une délégation de tâches. Prendre la tension et renouveler un traitement antihypertenseur, une infirmière peut le faire. Il faut qu'il y ait des délégations de tâches aux urgences et dans tout l'hôpital. Alors, on dit qu'on va créer des infirmières de pratique avancée. Elles vont faire 2 ans d'université. Et encore, bon, il y a des infirmières qui, aujourd'hui, savent faire ça. Il faut leur permettre qu'elles le fassent et qu'elles aient une rémunération en conséquence.
Merci pour votre témoignage, André Grimaldi. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin dans la matinale d'Europe 1. Et je rappelle que vous êtes professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
À suivre, la traque à Lorient pour retrouver le chauffeur de 20 ans qui a renversé deux enfants dimanche. Il conduisait sans permis. Sa famille l'appelle à se rendre. Vous l'entendrez dans le journal de 8h. Et puis dans une minute, le plus grand moment de l'histoire de la Coupe du Monde féminine de foot. Rien que ça. En plus, c'est raconté par le talentueux Jean-Philippe Ballas. A tout de suite.
Si vous souhaitez réagir à l'actualité, c'est très simple. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Bon Réveil. Il est 7h54. Et les 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Jean-Philippe Ballas, fan de football, oui. Alors que les Américaines font leur entrée ce soir dans la Coupe du Monde, vous allez nous raconter une finale historique. Ça s'est passé il y a 20 ans.
Et bienvenue dans un stade en surchauffe, littéralement, le Rose Bowl de Pasadena, Californie, 10 juillet 99. C'est bien simple, jamais dans l'histoire du sport, une épreuve féminine n'a attiré autant de spectateurs. Ils sont plus de 90 000, oui, pour cette finale de Coupe du Monde, Chine-USA. Ça, c'est sûr qu'il y en a de la pression, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. C'est l'épreuve des tirs au but. Les États-Unis prennent l'avantage du haut de ses 30 ans. Brandi Shaston est la cinquième joueuse à venir poser le ballon. Si elle marque, les Américaines sont championnes du monde à domicile. Triomphe des États-Unis, vous l'entendez. Et soudain, là devant les caméras, une image qui va faire le tour du monde, les amis. À genoux devant le but, Brandi Shaston vient de faire, comme les garçons footballeurs, oui, elle a enlevé son maillot blanc. Et la voici en brassière noire à courir sur le terrain avec ses partenaires. 20 ans plus tard, on lui en parle encore de cette brassière à Brandi Shaston. Elle raconte ce geste spontané, cette impression de liberté. Elle dit aussi que certains fans ont voulu lui racheter à prix d'or, mais elle l'a toujours gardée. Aujourd'hui, la fameuse brassière est même accrochée au mur chez elle sous cadre. Souvenir de 99. Et vous savez quoi ? Tiens, c'est cadeau. Il y a 20 ans, on écoutait ça.
Britney Spears, elle n'avait pas encore connu les affres du show business. Elle était encore toute pétillante. Et c'est vrai que cette image, je m'en souviens, elle est impressionnante. Elle a gardé sa brassière ?
Image iconique, encadré, elle l'a gardée encadrée au mur chez elle.
Elle a raison. Ce sont des symboles et des souvenirs. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas pour cette petite histoire qui fait du bien.
À suivre le journal de Sébastien Krebs, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol-Nicos.
Vous l'avez votre brassière ou votre glacière ?
c'est plutôt la glacière. Un temps frais, perturbé, nuages, des pluies. Alors, un petit rapide tour de France. Béarn, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, région Rhône-Alpes, Franche-Comté, Lorraine-Alsace, vallée du Rhône. Si vous habitez toutes ces régions, les pluies sont fréquentes aujourd'hui. En Bretagne, Poitou-Charentes-Aquitaine, c'est de la pluie ce matin, déjà, bien souvent, et elle va gagner les Pays de la Loire et la Normandie, mais sous forme d'averse cette fois. En région parisienne, Nord, Champagne-Ardennes, Centre, Picardie et Dijonais, les éclaircies seront là en matinée, puis des averses. Sur Paris, on pense que les averses n'arriveront pas avant 16, 17 ou 18 heures. Sur la Côte d'Azur et sur la Corse, alors là, c'est l'inverse. Hein, une grande chaleur, beaucoup de soleil, des températures ahurissantes avec 29, 27, 28 degrés à Bastia et en Corse. Et sur la Côte d'Azur, il fera autour de 25, 26. Voilà pour les valeurs... Si, j'insiste encore. Pardon. Oui. 15 à Clermont-Ferrand pour les températures, 16 à Rennes, c'est tout bas. 17 à Limoges, 18 à Nancy, 19 à Lille et 20 à Paris, voilà. Ouf.
Merci beaucoup, cher ami. À tout à l'heure, mais tout va bien. Heureusement que vous êtes là.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 en ce mardi matin. Bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Et le journal de 8h est présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Nikos. Bonjour.
Trois titres à la une ce matin.
L'hôpital français est-il au bord de l'asphyxie ? Épuisement des personnels, manque d'équipement et des patients dans les couloirs. 300 établissements en grève aujourd'hui au moment où est votée la loi santé. La traque à Lorient pour retrouver le chauffard qui a renversé deux enfants dimanche. Il conduisait sans permis. Sa famille l'appelle à se rendre. Et puis Tony Parker sans regret au micro d'Europe 1. La légende du basket français arrête là. Il prend sa retraite après 18 ans et 4 titres en NBA.
À suivre à 8h12, Vincent Herouet, vague de soutien dans les médias pour un journaliste russe visé par le Kremlin. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara qui reçoit Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires.
Europe 1.
Il y a eu ces dernières années les économies à faire d'un côté et de l'autre, des patients toujours plus nombreux, 21 millions chaque année aux urgences, le double d'il y a 20 ans. L'hôpital sature, les personnels surchauffent, 300 établissements sur 1000 seront en grève aujourd'hui et pas seulement aux urgences, au moment où le Sénat doit adopter la loi santé d'Agnès Buzyn. Illustration du malaise à l'hôpital du Pertuis dans le Vaucluse, Nathalie Chevance.
Milieu d'après-midi, la petite salle d'attente est déjà bondée. Evelyne, infirmière urgentiste, gréviste en t-shirt noir, gère les cas les plus graves déjà enregistrés.
Donc vous voyez que tout cela n'a pas été vu au moment où ils sont arrivés. Et ça fait 3 heures. Et c'est ça, c'est là que c'est dangereux, parce que si on ne les voit pas au moment où ils arrivent, on peut passer à côté. On se dit, si on a une personne gravissime, on va la mettre où? C'est de la bricole et c'est l'angoisse.
Car dans le service, tous les box sont déjà pris, même la salle de déchocage, manque d'espace, d'équipement et de personnel. Face à des malades de plus en plus nombreux, Céline, infirmière gréviste, réquisitionnée.
Aujourd'hui, je travaille en 12 heures parce qu'il manquait du monde. Jusqu'au 22-23, je n'ai pas 2 jours de repos consécutifs. Épuisant. Les locaux sont sous-dimensionnés. Le temps que les travaux se fassent et qu'on ouvre un service, eh ben, il est déjà dépassé. Terrible.
Et dans les couloirs, sur les brancards, les malades perdent patience. Ils vont 82 ans et là depuis...
Ça fait 3 heures. C'est très long. Moi, j'aurais aimé qu'on me mette ma femme à côté de moi.
Là, vous êtes tout seul.
Voilà. Très, très en colère. 3 heures là, c'est impensable.
Il manque ici aux urgences un brancardier, 2 infirmières. La direction de l'hôpital affirme ne pas disposer de budget. Pertuis, Nathalie Chevance, Europe 1.
Le secteur de la santé sous tension et le trou de la sécu qui se creuse à nouveau. Les prévisions ne sont pas bonnes. Alors que le gouvernement tablait sur un retour à l'équilibre cette année, les comptes de la sécurité sociale replongent dans le rouge. Il va manquer entre 1,7 et 4,4 milliards d'euros.
À Lorient, le chauffard qui a tué un enfant dimanche en tentant d'échapper à la gendarmerie est toujours activement recherché.
Il a 20 ans et c'est un récidiviste de la conduite sans permis. Il a pris la fuite avec une femme qui l'accompagnait. Bonjour Hélène Terzian. Vous êtes notre envoyé spécial d'Europe 1 dans ce quartier de Lorient, toujours sous le choc ce matin. Et vous avez rencontré hier la famille du fuyard. Elle lui demande de se rendre.
Effectivement, à commencer par la grand-mère désorientée. Depuis le drame, accrochée à son téléphone, elle tente en vain de joindre son petit-fils et voudrait lui dire de se livrer aux autorités. J'ai également passé du temps avec la tante du suspect, abasourdie. Elle ne comprend pas ce qui lui est passé par la tête, pourquoi il ne s'est pas arrêté après l'accident. C'est toute une famille qui s'interroge jusqu'au père du jeune homme. Je l'ai joint par téléphone, effondré. Il tient à collaborer avec les enquêteurs car tous sont d'accord. Il doit se rendre, martèle-t-il, pour respecter le deuil de la famille des 2 enfants fauchés.
Et ce matin, donc, la traque continue.
Oui, et si les recherches des forces de l'ordre sont discrètes, c'est sur les réseaux sociaux que les habitants recherchent le chauffard. Sa photo, son nom, son âge circulent sur tous les écrans. Certains jeunes hommes me racontaient hier que juste après l'accident, le suspect serait retourné dans l'un des quartiers voisins qu'il a l'habitude de fréquenter avant de disparaître, comme la passagère de 21 ans, visiblement sa compagne, elle aussi activement recherchée.
Hélène Terzian, en direct de Lorient pour Europe 1.
Il est 8h04.
Ils ont échappé à la guerre. 12 enfants ont été rapatriés hier en provenance de Syrie.
Fils et filles de djihadistes français qui les avaient embarqués dans leur exil sur les terres de Daesh. La plupart reviennent orphelins, certains malades et dénutris. Ils ont tous été remis au service de protection à l'enfance. Seulement 2 ont toujours leur mère vivante restée là-bas pour y être jugée. C'est elle qui a donné son accord pour le rapatriement. Originaire de Lunel, sa famille espère maintenant obtenir la garde de la fratrie. Benjamin Péter.
L'aîné n'avait que 5 ans quand Saïda, sa maman, est partie épouser Yassine Sakam en 2015, un djihadiste originaire de Lunel et condamné à mort en Irak le 29 mai dernier. Les oncles, les grands-parents des enfants avaient porté plainte pour enlèvement pour maître Sophie Mazas, l'avocate de la famille. Ça fait de longs mois que Saïda espérait que ses enfants rentrent en France.
Ça fait 1 an et demi qu'elle a accepté, elle a toujours persévéré dans cette voie. C'est un sacrifice, effectivement. Là, ça va être très dur là-bas pour elle, mais elle ne voulait pas que ses enfants payent pour ses erreurs. Elle sait qu'en France, ils seront bien. C'est un gros soulagement. Et maintenant, ce qu'espèrent les enfants, c'est pouvoir rentrer chez eux pour l'aîné qui a vécu au quotidien avec ses grands-parents. C'est revoir papy, mamie, tonton, retrouver mes copines et mon vélo et oublier la guerre. Avec l'aide qu'il faudra mettre autour, bien sûr.
Ce choix de laisser partir ses enfants seuls est lourd de conséquences. Dans le camp de Roj, où ils étaient détenus depuis plusieurs semaines, cette famille était la cible de jets de pierre. Et maintenant que les enfants sont partis, beaucoup redoutent des représailles contre Saïda. Les enfants, eux, vont d'abord être confiés à l'aide sociale à l'enfance avant que la justice ne décide de leur garde. Montpellier, Benjamin Péter, Europe 1.
La politique à présent, voilà une promesse qui a déroulé de la crise des Gilets jaunes et du grand débat, revaloriser le rôle des élus locaux.
Et notamment celui des maires qu'Emmanuel Macron est longuement allé chouchouter ces derniers mois. Il leur a promis de leur redonner toute leur place. Eh bien, le texte est prêt. Europe 1 vous révèle ce matin le contenu d'une future loi. Jean-Rémy Baudeau, il s'agit de mieux consulter, mieux former, mieux reconnaître ces élus de terrain.
Oui, un texte inspiré directement des difficultés énoncées par les maires lors des 96 heures de grand débat avec le président Macron.
le nom de ce texte, pour une nouvelle confiance dans les élus locaux. Une loi très courte, censée rééquilibrer les manquements de la dernière loi sur le sujet, votée sous François Hollande. Concrètement, les élus de petites communes vont être mieux consultés dans les intercommunalités. Tous vont pouvoir bénéficier de formation. Jusqu'ici, c'était souvent les partis qui s'en chargeaient. Les maires de moins de 1000 habitants auront une assistance juridique, une véritable protection. Enfin, la question des dépenses n'est pas encore tout à fait tranchée, mais certains frais de mandat pourraient être pris en charge. Pour le gouvernement, il s'agit de mieux reconnaître, de valoriser l'engagement des élus locaux. Le calendrier s'annonce serré. L'exécutif veut que la loi entre en vigueur avant les prochaines municipales.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Cela vous concerne si vous faites partie des 800 000 parents qui font garder leur enfant chez une nounou ou une assistante maternelle. Le gouvernement va le confirmer aujourd'hui à partir de la fin du mois. Vous n'aurez plus à avancer l'ensemble du salaire. Les aides des allocations familiales seront désormais automatiquement déduites.
Europe 1.
À suivre dans ce journal, l'alliance Renault-Nissan en pleine tempête. Que se passe-t-il ? Risque-t-on le divorce ? On en parle dans quelques instants avec Emmanuel Duteil dans le journal de Sébastien Krebs.
Il est 8h09, votre matinale info, Nicolas Saliagas.
La suite du journal de 8h avec Sébastien Krebs. Et décidément, Renault traverse une bien mauvaise passe, Sébastien.
Il y avait déjà l'affaire Ghosn, puis le mariage qui a capoté avec Fiat. Cette fois, c'est l'alliance avec Nissan qui tangue. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
On se demande si ces deux-là ne sont pas au bord du divorce. Ça bloque sur des problèmes de gouvernance, c'est ça ?
Oui, c'est très tendu en ce moment. Et oui, il y a des divergences fortes dans le camp Renault. On ne cache pas en ce moment son énervement. Le problème, c'est la répartition des postes pour la future gouvernance de Nissan, une nouvelle organisation mise en place justement après l'affaire Ghosn. Et chez Renault, on voit finalement les choses assez simplement. On a 43% du capital, c'est normal que nous soyons représentés en fonction de notre poids. Mais chez Nissan, on ne l'entend pas de cette oreille et on en a ras-le-bol d'être un peu trop encadré par le cousin français. Du côté de l'État français, justement, on tente d'apaiser les tensions. Bruno Le Maire a rencontré hier matin son homologue à Tokyo et ils ont rappelé leur attachement à l'alliance. Mais ça, c'est du langage diplomatique. Il y a bien en ce moment des négociations dans chaque camp pour pousser ses pions avant l'Assemblée générale de Nissan prévue le 25 juin. Assemblée générale qui devait être la grande réconciliation. On ne divorce pas, mais oui, ce sont des négociations dures, reconnaît une autre source qui se veut malgré tout assez fataliste. On est le principal actionnaire. Ce serait quand même compliqué de nous dire que nous n'avons pas raison.
Emmanuel Duteil, chef du service France d'Europe 1, merci.
Merci Emmanuel. C'est une légende du basket qui tient sa révérence. Tony Parker prend sa retraite.
Il aura passé 18 ans sur les parquets américains de la prestigieuse NBA. 4 titres remportés avec San Antonio. Il a aussi mené l'équipe de France vers la victoire en championnat d'Europe. À 37 ans, Tony Parker raccroche, sans regret comme il l'a confié à Christophe Lamar. Décision mûrement réfléchie, dit-il.
Oh, ça fait longtemps que j'y ai pensé et je trouvais que c'était le bon moment. Je me suis longtemps préparé pour l'après-carrière et donc je suis excité pour le futur et pour tous mes projets. J'y ai beaucoup réfléchi et ça ne m'intéresse pas de jouer au basket si je ne suis pas moi-même, si je ne suis pas Tony Parker et on essaye de gagner un titre.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je sais qu'il y a l'ASVEL, il y a la finale, mais quelle va être la vie de Tony Parker maintenant ?
Bah, tu viens de le dire, hein. Il y a la finale avec l'ASVEL, on vient de gagner avec les filles, donc maintenant c'est essayer de rentrer dans l'histoire et gagner avec les garçons. Il y a mon académie qui va ouvrir en septembre, on a fait un super projet avec Villard de Lans et la station de ski, donc il y a plein de projets et de belles perspectives.
Tony Parker, si je vous demande une image que vous retiendrez de votre carrière, alors je sais qu'il y a l'équipe de France qui vous tient à cœur, mais une image.
Une image, moi c'est dur de choisir une image.
Allez, deux.
Moi, je dirais mes 4 titres à NBA et le titre de champion d'Europe.
Voilà, Tony Parker avec Christophe Lamar pour Europe 1. Et puis à l'agenda, le foot ce soir. Les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur. Cette fois en Andorre, il faut gagner après la défaite encaissée en Turquie. Nouveau match des éliminatoires de l'Euro 2020.
Il faut de la sérénité pour avoir le culte de la gagne. Et ça, il l'a vraiment, Tony Parker. Merci Sébastien Krebs. À demain.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Oui, ça sera David Doucan demain. Il est 8h12. Coup d'œil à présent, Nico, à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette.
Bonjour, cher ami Vincent Hervouette.
Bonjour Céline, bonjour Nico, et bonjour à tous.
Une tempête à Moscou, l'arrestation d'un journaliste qui provoque l'indignation planétaire et c'est la police qui se retrouve en accusation.
Alors la solidarité, c'est pas un réflexe chez les journalistes russes. Ils se connaissent trop, ils se méfient et puis ils sont si vulnérables qu'ils évitent l'indignation facile. L'exception à la règle, C'est Ivan Golunov. Le reporter travaille pour un site en ligne qui s'est réfugié dans les pays baltes. Lui enquête sur la corruption, sujet inépuisable, et il a mis en cause la mairie de Moscou et les mafieux qui se partagent le business des cimetières. Car même quand il est mort, un Russe continue à se faire racketter. Et même quand il dit vrai, un journaliste risque la prison. Alors Ivan Golunov a été arrêté en pleine rue, accusé de trafic de drogue, il risque 20 ans de prison. C'était jeudi. Depuis vendredi, des journalistes avec des pancartes se relaient devant le siège du ministère de l'Intérieur pour réclamer sa libération. Samedi, ils étaient encore plus nombreux à manifester devant le tribunal. Et le mieux, hier, la une des trois grands quotidiens économiques dans la même typo, la même manchette pour Vedomosti, RBK et Commerçante. Je suis... Nous sommes Ivan Golunov. Les journaux soulignent que les preuves ne sont pas convaincantes et que l'arrestation s'est déroulée en violant la loi.
Alors, plus improbable et incroyable, c'est que les médias officiels protestent aussi.
Oui, les journaux aux ordres, les médias du bourrage de crâne, même le porte-parole du Kremlin avouent qu'il se pose beaucoup de questions. D'habitude, il fournit les réponses et il n'avoue jamais.
Ouais.
Tout aussi bienveillant, le Conseil présidentiel pour les droits de l'homme a vu Ivan Golunov et rapporte qu'il a été passé à tabac. Bref, personne ne croit que la police a trouvé 4 grammes de méphédrone, une drogue de synthèse, dans le sac à dos du reporter, ni qu'elle a découvert un atelier de fabrication à la maison. D'ailleurs, les photos de la scène de crime sont des faux. Le stratagème est si banal, si bâclé, c'est un montage cousu de fil rouge. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Des poulets en accusation non plus. À Moscou, il y a une purge qui se prépare. Il y a un an, Vladimir Poutine a été réélu triomphalement, mais sa cote de popularité s'est effondrée depuis qu'il a relevé l'âge de la retraite et le taux de la TVA. Combattre des flics ripoux et sauver un innocent persécuté devrait l'aider à restaurer un peu de son crédit dans l'opinion et pour les investisseurs étrangers qui s'enfuient en ce moment de Russie.
Vincent Hervouette pour l'édito international.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Restez avec nous, Audrey Crespo-Marin. À chaque fois que je dis Vincent Hervouette et que je le prononce bien,
il est heureux.
Parce que parfois je ne vais pas lever, je dis Hervouette, ça l'énerve.
Un homme heureux, Nikos. Ouais.
Audrey Crespo-Marin, je vous l'écorche moins.
Bonjour, Nikos. Bonjour. Bonjour à tous.
Qui est votre invité ce matin?
Eh bien, écoutez, la grève dans les services d'urgence s'étend en France, dans nos territoires déjà touchés par les déserts médicaux. Jacqueline Gourault, ministre des Territoires, sera mon invité.
Avec plaisir. À tout de suite.
Une très belle matinée sur Europe 1. Il est 8h15.
La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, et votre invitée, Audrey Crespo-Marin.
Bonjour Jacqueline Gourault.
Bonjour.
Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a critiqué les urgentistes qui se sont mis en arrêt maladie pour protester contre leurs conditions de travail. Ne croyez-vous pas que les urgentistes ont de vraies, bonnes raisons d'être au bout du rouleau ?
Ils ont des raisons, effectivement, et on ne peut pas décorréler la crise des urgentistes de la crise démographique des médecins libéraux sur le territoire. Naturellement, par manque de médecins généralistes, par manque aussi permanence des soins, je dirais, eh bien, beaucoup de malades vont vers les urgences alors qu'ils ne devraient pas y aller.
Allons se souligner, par exemple, la gendarmerie a réveillé des soignants au milieu de la nuit chez eux pour les contraindre à rejoindre leur poste de travail. La méthode ne vous choque pas ?
Ben, c'est possible, la loi le permet, parce que quand il y a des urgences, comme le nom l'indique, et des malades, il faut absolument réquisitionner, c'est le droit de réquisition, des urgentistes pour faire le job, sinon il y a risque...
Les forces de l'ordre, ça ne vous choque pas, qu'on a cherché chez eux les soignants.
C'est une décision administrative de la part du préfet, et il faut effectivement faire en sorte qu'il n'y ait pas... S'il y avait des gens qui mouraient par manque de soins, ce serait aussi dramatique.
Jacqueline Gourault, ministre des Territoires, en février, 35 maires de la Nièvre ont dû menacer de démissionner pour empêcher la fermeture des urgences à l'hôpital de Clamecy. Trouvez-vous normal qu'ils aient dû en arriver au chantage ?
Je connais bien la Nièvre. Avec Agnès Buzyn, d'ailleurs, nous avons décidé, avec l'aide de la région, de la présence d'un hélicoptère sanitaire permanent à Nevers, puisque c'est un département très enclavé et que tout malade est à 3 heures de route d'un CHU. Donc nous avons déjà regardé de très près la situation de la Nièvre et je sais que là aussi, il y a des problèmes d'urgence.
On a l'impression que ça craquelle de partout quand même.
Encore une fois, le problème de la démographie médicale et de l'insuffisance des médecins généralistes dans certains territoires. Mais il y a des mesures aussi qui ont été prises par Agnès Buzyn dans la loi santé. Et notamment pour répondre en urgence, je dirais, en salariant 400 médecins généralistes qui vont être envoyés sur les territoires.
Qui sont payés par l'État.
Absolument, qui vont être envoyés sur les territoires où il y a la plus grande déficience.
Plus de 3 millions de Français vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Sachant qu'à Paris, les secours mettent en moyenne 5 minutes pour intervenir. Comment corriger cette inégalité devant la santé ?
Eh bien, ce que nous venons de dire, c'est de mieux répartir le nombre de médecins sur le territoire. Alors, je me permets de dire que pendant de très longues années, il y a eu l'existence d'un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on limitait le nombre de médecins qui sortaient de l'université. Ça date de 1971 et qu'on est arrivé à une situation où il y a insuffisance de médecins. Il y a insuffisance et pour être très juste aussi, les médecins ont tous envie de s'installer au même endroit. Et donc, ça pose des problèmes. Il faut donc faire toute une politique, supprimer le numerus clausus.
Mais
bien sûr, vous allez me dire, ça met
10 ans,
je sais. Je sais, mais c'est mieux de le supprimer tout de même pour prévoir l'avenir, parce qu'on peut dire que ceux qui étaient avant nous ne l'ont pas tellement prévu.
Jacqueline Gourault, en fin de semaine, vous vous rendrez au Congrès des villes de France à Albi. La moitié des maires n'envisagent pas de se représenter aux prochaines municipales dans 9 mois. Comment expliquez-vous cette brutale désaffection pour la fonction de maire ?
Alors, ce n'est pas une brutale désaffection, puisque c'est un phénomène qui s'est déjà produit. Je rappelle
qu'au dernier municipal,
il y a eu 40% de renouvellement. Donc, il y a aussi des rythmes de renouvellement qui se font, et c'est bien normal. Et il y a besoin d'accompagner les maires dans l'exercice de leur mandat. C'est d'ailleurs l'objet d'une loi qui va être présentée au mois de juillet par Sébastien Lecornu.
Qui travaille avec vous sur les territoires.
Oui, qui travaille à mes côtés dans les relations avec les collectivités territoriales. Donc il faut accompagner les élus, assurer l'environnement, si je puis dire, de la vie d'un élu sur le plan professionnel, etc., de façon plus assumée, et puis aussi renforcer la mission qu'ils ont au niveau des mairies.
Alors on va essayer d'être précis justement là-dessus. Les maires des petites communes se plaignent de la loi NOTRe, qui a permis de créer de grosses intercommunalités dans lesquelles ils se sentent dépossédés de leur pouvoir. Quelles mesures prendre pour remédier à cela ?
Alors, il y a plusieurs mesures qui vont être prises dans cette loi, mais prenons 2 ou 3 exemples. La création de conférences des maires, c'est-à-dire de rendre obligatoire au niveau de l'intercommunalité, un espace, une institution, entre guillemets, où les maires siègent, puisque naturellement la représentation des communes dans l'intercommunalité fait que tous les maires ne siègent pas dans l'intercommunalité. Donc il faut un endroit, un espace pour qu'ils puissent siéger.
Par exemple, à Souillac, en janvier, le président a plaidé pour une intercommunalité choisie et non pas forcée. Ça veut dire que les maires vont pouvoir quitter une intercommunalité librement ?
Alors, on peut déjà quitter l'intercommunalité, mais
plus
on va assouplir, effectivement, dans ce projet de loi, et on va assouplir la possibilité de sortir des intercommunalités. Ceci dit, je ne crois pas qu'il faille faire un bing-bang territorial, puisque des maires aussi sont très attachés à l'intercommunalité. Et l'intercommunalité, quand elle est bien faite, bien vécue, elle apporte aussi beaucoup de choses au territoire.
Sébastien Lecornu, dont vous parliez il y a un instant, qui travaille avec vous au niveau des territoires, redoute que dans certaines petites communes, il n'y ait aucun candidat dans 9 mois pour le poste de maire. Est-ce que la manière la plus efficace de rendre la fonction de maire plus attractive, ce ne serait pas qu'il gagne plus ?
Alors c'est un sujet, et surtout il faut comprendre qu'en France, nous avons un système qui fait que les maires ont des indemnités, puisque la culture française, c'est qu'on est agriculteur, ingénieur, ouvrier, pharmacien, ce que l'on veut, et on est en même temps élu. C'est une culture particulière, différente des autres pays, où quand vous êtes maire, vous êtes payé comme un fonctionnaire de l'État.
Je donne juste un exemple pour nos auditeurs. Le maire d'une commune de moins de 1000 habitants perçoit une indemnité de 1200 euros, ça vous paraît suffisant ?
Ça me paraît pas vraiment suffisant, mais je vais vous dire quelque chose pour préciser quelque chose. Il y a les élections municipales. La première réunion du conseil municipal, derrière, on vote les indemnités pour les maires. Parce qu'il faut passer par un vote. Et c'est pas facile, parfois, de se faire attribuer les indemnités, parce que il y a des gens qui pensent que vous êtes assez riche pour cela, que vous avez suffisamment de revenus, etc. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'avais fait voter, quand j'étais sénateur, l'automaticité de la rémunération des maires.
Je rappelle que vous étiez maire d'une petite commune pendant de longues années, et que vous étiez prof aussi, à mi-temps, qu'il fallait combiner les deux.
Absolument. Eh bien, oui, et heureusement qu'on a des indemnités pour compenser le mi-temps que vous n'exercez plus professionnellement. Et donc, il faut accompagner l'exercice des mandats avec un certain nombre de mesures d'accompagnement social, je veux dire, des maires. Il y a les indemnités, mais il y a beaucoup d'autres choses. Le crédit d'heure, les autorisations d'absence, la sécurité sociale, enfin, des tas de choses qui vont être traitées ou, comment dire, perfectionné dans cette loi qui va être portée par Sébastien Lecornu.
Cet été. Merci beaucoup, Jacqueline Gourault.
Merci. La ministre de la Cohésion des Territoires était votre invitée, Audrey Crespo-Marat. Merci.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, l'essentiel de l'info aussi. 8h30, la revue de presse de David Abiker et 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix. Tout de suite, bonne matinée à tous sur Europe 1.
Avec Nico Saliagas, il est 8h27. Essentiel de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo, Nikos, avec Laurent Cabrol.
La météo avec de fortes pluies et de la fraîcheur.
Oui, de la fraîcheur, de la pluie, du vent, des nuages, enfin bref, c'est une journée assez désagréable, même peut-être la plus désagréable de la semaine. Je voudrais simplement noter ces petites exceptions qui n'en sont pas, qui sont pas si petites que ça. La Corse et la Côte d'Azur bénéficient du soleil de la Tunisie et du Sirocco. Ces deux régions seront vraiment sous des températures extrêmement élevées, alors que partout ailleurs, ce sera frais, entre 15 et 20 degrés, 20 à Paris, et puis pour les excessifs, 24 à Nice et 26, 27 à Bastia.
On est jaloux.
on est vraiment jaloux. 16 à La Rochelle, au passage, 17 à Bordeaux, à Lyon, 17 à Limoges, 18 à Nancy. Je voudrais dire quand même que pour le mois de juin, chaque éclaircie est réconfortante, donc profitons-en quand il y a des éclaircies. Le soleil donne bien, donc ça c'est un réconfort pour nous. Et puis l'amélioration que l'on attend pour dimanche, je voudrais pas trop pessimiste, mais enfin c'est pas évident. Voilà, ce que je peux dire à nos amis, c'est pas évident, l'amélioration de dimanche pourrait être de très courte durée et on n'est pas encore sorti totalement de l'auberge. J'en reparlerai.
On se croit au mois d'avril. Merci beaucoup. Exact. À tout à l'heure, Laurent.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mardi 11 juin, toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nico Saliagas.
Les personnels hospitaliers appelés à faire grève et à manifester dans toute la France, l'intersyndicale réclame plus d'effectifs et de meilleurs salaires. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, doit défendre aujourd'hui son projet de loi face aux sénateurs. Le déficit de la Sécu va encore se creuser cette année. Selon la commission des comptes, il pourrait atteindre 1,7 milliard et jusqu'à 4,4 milliards. Football, Andorre, France, c'est ce soir. Match de qualification pour l'Euro 2020 et victoire obligatoire pour les Bleus après l'échec en Turquie. Coup d'envoi à 20h45. Et puis Tony Parker qui dit adieu au parquet. La plus grande star du basket français prend sa retraite et il n'a que 37 ans. Merci Tony.
Europe 1.
Et il est 8h31, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Avec vous mon cher David, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
Bonjour.
À la une ce matin... Le travail.
Le travail est un anniversaire qui fait la une de l'humanité, le centenaire de l'Organisation internationale du travail, devant laquelle le président Macron fera aujourd'hui un discours en faveur d'une mondialisation plus sociale. Et c'est encore le travail qui est à la une des journaux ce matin. Le travail des urgentistes, la crise des urgences met le gouvernement sous pression, titre Le Figaro. Pour Libération, les urgences, ça urge. Mais c'est Patrick Chabanet du journal de la Marne qui résume le mieux la situation professionnelle de ces urgentistes au bord de la crise de nerfs. Chacun a pu constater les conditions de travail dans les hôpitaux. Le dévouement permanent ne suffit pas pour tout supporter. Les horaires impossibles, le burn-out qui menace et l'incompréhension de la technocratie qui ronge la motivation de ceux qui ont choisi ce métier par motivation.
Pourtant, il existe des alternatives pour éviter l'asphyxie des urgences.
Alors, vous allez vous faire une idée en lisant Libération ce matin. Un portrait d'abord catastrophique du service des urgences de l'hôpital de Crest dans l'Oise avec ses médecins démissionnaires, ses sous-effectifs, ses patients qui viennent puis renoncent. Et puis vous lirez aussi Le Figaro qui revient sur l'idée du député La République En Marche, Olivier Véran, d'une incitation financière pour les services d'urgence qui réorienterait les patients vers la ville s'ils ne nécessitent pas une simple consultation. 28% des patients n'ont rien à faire aux urgences et Le Figaro décrit un système budgétaire de tarification ubuesque qui ne distingue pas les cas graves de la petite bobologie, comme ils disent. En clair, les cas légers surfinancés permettent d'équilibrer les cas lourds sous-financés. Conséquence et effet pervers, les hôpitaux dynamisent leurs recettes en accueillant des patients qui pourraient être traités ailleurs. D'où l'idée de lever les freins financiers pour développer les alternatives aux toutes urgences. Alors, autre exemple, l'hôpital de Poissy qui a mis en place une maison de soins non programmée, avec des consultations de médecins libéraux. Mmh. Grenoble également, avec médecins 7 sur 7 ouverts de 8h à minuit, une rotation de 40 médecins qui travaillent en réseau avec des laboratoires et des radiologues à proximité. Bilan, quand même, 50 000 patients reçus chaque année, ça désengorge les urgences.
Le travail également, qui est à la une de nombreux quotidiens régionaux.
Alors que l'Organisation internationale du travail, à l'occasion de son centenaire, entend aboutir à une convention internationale sur le harcèlement au travail, le Républicain Lorrain fait sa une sur le projet de loi santé au travail sur lequel le gouvernement pourrait lever le voile vendredi, alors que se déroule le procès du harcèlement moral à France Télécom. À la une de l'Ardennais, les artisans pénalisés eux aussi dans leur travail par le vol de leurs véhicules utilitaires, recrudescence de ces vols, la camionnette de boucher, de fleuriste, le mode opératoire est souvent le même. Les voleurs, toujours plus spécialisés, placent sous le véhicule un outil gonflable, du genre un petit bateau gonflable, et filent avec le camion. Les véhicules sont ensuite envoyés en Europe de l'Est ou mis en pièces détachées. En France, et selon la Fédération française du bâtiment, les vols de véhicules et de matériel de chantier représenteraient près d'1% du chiffre d'affaires du bâtiment, soit 1 milliard d'euros dans les échos. On lira aussi ce matin comment le MEDEF se mobilise pour faciliter la réinsertion professionnelle de 15 000 militaires et notamment de soldats blessés. La vague terroriste et la multiplication des conflits ont sensibilisé les entreprises et c'est un tour de France des régions qui sera lancé cet automne assorti d'un guide d'embauche du soldat en vue d'informer les patrons de PME-PMI. Et puisqu'il est question de soldats, on finira sur une émotion. Les retrouvailles, 75 ans après le débarquement de Kitty Robbins et de Janine Pearson. Magnifique. Ils avaient 20 ans à peine quand ils se sont rencontrés et aimés quelques semaines en Meurthe-et-Moselle, juste après que lui, le soldat américain, le soldat Robbins, ne parte sur le front de l'Est. La vidéo de ce document diffusé hier sur France 2 n'en finit pas d'émouvoir ceux qui l'ont loupé au journal de 20h. Ils ont plus de 90 ans, se retrouvent dans la maison de retraite de Janine. « Je t'ai toujours aimé, toujours. Tu n'as jamais quitté mon cœur, lui dit-il. Elle à la caméra. Il dit qu'il m'aime. J'ai compris ça. Moi aussi, j'ai toujours pensé à lui. » En me disant peut-être qu'il va venir. Émotion et larmes garanties pour ce qui est sans doute la séquence émotion de l'année. En tout cas, moi, j'avais les lunettes qui ressemblaient à un aquarium.
En tout cas, les amours de jeunesse ne connaissent pas l'épreuve du temps et vous ferez un très très bon doubleur dans des soaps l'après-midi à la télévision.
Vive la reconversion.
Non, mais je serai avec vous, vous inquiétez pas. Tu m'aimes, Brandon, un truc comme ça. C'était David Abiker pour la revue de presse.
Et il est 8h36, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde féminine de foot, Nikos, dont Europe 1 est la radio officielle.
La Coupe du Monde féminine,
l'événement foot est sur Europe 1.
Et du lundi au vendredi, après la revue de presse, le journal de la Coupe du Monde féminine, avec vous, Jérôme Lacroix, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une.
France-Norvège, demain à Nice, tribune comble pour le plus gros morceau du premier tour. Qui jouera côté français? Blessure légère mais tenace pour deux joueuses majeures. Et puis les Américaines, nature forte, championnes en titre et fâchées avec leur patron.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Mais je voulais démarrer, Nikos, avec cette ambiance captée hier dans les rues de Montpellier. C'est l'œuvre bon, des supporters camerounais venus encourager leurs joueuses. Elles affrontaient le Canada, 5e nation mondiale. Les Camerounaises sont 46e, alors oui, elles ont perdu. Mais un petit but à zéro seulement, triste mine, mais bonne figure. Et c'était bien hier, la journée des valeureuses. Les Argentines, de leur côté, ont fait parler la grinta, vous savez, l'esprit de combat sud-américain pour résister aux japonaises vice-championnes du monde, 0-0.
Et nos bleus alors, quelles sont les nouvelles
des
filles ?
France-Norvège, entraînement hier, la défenseuse Wendy Renard et l'attaquante Eugénie Le Sommer. Elles sont légèrement blessées, elles ont été ménagées. Simple précaution, dit le staff, on devrait en savoir plus aujourd'hui. Demain, une nouvelle fois, ce sera un match dans un stade aux tribunes combles. Plus de 35 000 spectateurs attendus à Nice. Et ça va compter, la défenseuse Amel Majri.
Sentir toute cette ferveur autour de nous, bah, ça nous pousse et ça nous propulse quand on a des moments, par exemple, de moins bien. C'est ce plus des fois qui fera la différence pour nous aider à gagner certains matchs.
France-Norvège demain, soirée spéciale hein, sur Europe 1, 20h-23h30, match en intégralité.
L'équipe à suivre aujourd'hui, les États-Unis.
Les championnes en titre ce soir face aux Thaïlandaises, joueuses stars. Alex Morgan, 29 ans, attaquante, capitaine américaine. 9,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est plus que Tony Parker ou Tiger Woods. Ces Américaines lancées à la conquête d'une quatrième couronne mondiale, et elles ont les arguments pour réussir, c'est en tout cas ce que prédit Sandrine Roux, l'ancienne bleue, consultante Europe 1.
Elles ont une force mentale exceptionnelle et elles restent très 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 compétitives. Elles ont une équipe relativement complète, des joueuses de très haut niveau et qui ont l'habitude aussi des compétitions de haut niveau et des filles qui ont l'habitude d'être titrées surtout.
Des Américaines en procès avec leur fédération hein, pour discrimination sexiste généralisée. Elles réclament d'être traitées comme les garçons sur les aspects financiers et logistiques. Il faut savoir qu'outre-Atlantique, le soccer là-bas pèse près de 2 millions de licenciées filles. C'est quasi autant que les garçons en France.
Les Néo-Zélandaises, elles, ont en fini avec d'éventuels problèmes de discrimination. C'est l'histoire du jour. Oui. Racontez-nous.
L'année dernière, le pays a accordé la parfaite égalité footballeuse-footballeur en sélection. Ces Néo-Zélandaises qui défient les Néerlandaises. Aujourd'hui, 15h, les Néerlandaises championnes d'Europe en titre.
Merci beaucoup, Jérôme Lacroix. À demain.
À demain.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Julie est dans la place, elle vient de mettre son casque. Elle en est à sa combien de versions aujourd'hui de Canteloup ?
Non, je suis qu'à la V5, c'est cool V5. Raoul.
Ouais, V5 cool. Versions, ça veut dire que la première patte a été la bonne. Après, il s'adapte. Parce qu'en direct, il peut faire des petits ajustements, des petites improvisations. Il arrive, Canteloup, en direct avec Julie sur Europe 1. Bonne matinée à tous.
Et il est 8h40. Il est 8h42.
Vous êtes stressé, vous êtes dans les embouteillages. Oui, vous vous dites les bienfaits du pont sont déjà très loin. Vous êtes peut-être tout simplement peinard à la maison, sur une terrasse de café à nous écouter sur l'application Europe 1. Ne vous inquiétez pas, le meilleur est là. Il s'appelle Nicolas. Nicolas Canteloup avec Julie. La revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On démarre. Titre principal de l'actu, Nico, c'est à vous.
Ouais, ne vous inquiétez pas, les bienfaits du pont, les bienfaits du punch sont là, pas trop loin. Alors, l'info rock'n'roll of the morning of today, oui, je suis rock ce matin, ce morning, car vous le voyez, chers auditeurs, si vous êtes sur Internet, j'ai un t-shirt à l'instant, là, vous voyez, avec des têtes de mort. C'est ma cote-part, je vais tout vous dire, ma cote-part de l'héritage de Johnny. Voilà, j'ai réussi à gratter un t-shirt de Tony. C'est vous dire si m'estimer. Voilà. Alors, l'info surround, c'est cette fin de carrière, non pas celle du basketteur Tony Parker, mais celle d'un humoriste, comédien et accessoirement maire de Levallois-Perret, c'est Patrick Balkany, qui tire sa révérence. Puisque, allez le voir, c'est l'avant-dernière semaine de son procès, allez le voir en public. A noter que Tony Parker a fait seulement une carrière américaine, alors que Patrick Balkany a une carrière internationale. Marrakech, Genève, le Panama, Saint-Martin, les îles Caïmans. Salut Patrick, chapeau l'artiste.
Allez, un petit point météo sur ce mois de juin très perturbé. Laurent Cabrol, s'il vous plaît, rassurez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Bah alors.
Ouais, il y a Cabrol qui pleure. Filez-lui sa tétine au rosé. Voilà, ça va le calmer.
Pas folichon, hein. Ce mois de juin, on va tout dire. Bon, le bruitage était merdique, puis c'était une voix de bébé. Mais bon, ma voix, moi qui pleurais, mais bon, c'est pas grave. On est habitué.
On se demande pourquoi. Merci, mais bon, c'est pas grave.
Écoutez. C'est, voilà, le mois de juin est tellement pourri qu'on serait en novembre, ce serait pas folichon. Même pour un mois de novembre non plus. Hein, alors, pour rassurer un peu, je vous l'ai dit hier, c'est pourri jusqu'au 15 juin. Ça, c'est sûr, je me suis engagé là-dessus. Par contre, après le 15, j'en sais rien. Hein, ce sera soit pire, soit mauvais, pareil. Cela dit, soyez positifs, je vais pas vous laisser sans solution. Hein. J'ai une idée pour l'année prochaine. Guy Forget, le directeur brillant du tournoi de Roland-Garros, va faire un tour en verre au-dessus de Roland-Garros. Eh bien, je lui propose une chose. Je pense que ce serait bien de le faire un peu plus grand, pour couvrir Paris, pour couvrir même l'île de France, même carrément plus grand, la région nord, voire la France entière. Donc je propose le TVP, le tour en verre par précaution.
Merci beaucoup Laurent. Plus de 70 maires de la droite et du centre, principalement issus du Parti Les Républicains, ont exprimé dans une tribune leur soutien à Emmanuel Macron. Nadine Morano est avec nous.
Oh là là. Mais barrez-vous, les lopettes. Mais tirez-vous, bande de lâches. On n'a pas besoin de vous, Républicains.
On se calme.
Voilà.
Allez.
Mais non, je me calme pas.
Bonjour, Nadine Morano. Bonjour.
Ouais,
alors,
ça, ouais.
Vous avez vertement réagi. Vous avez dit, c'est une désertion.
Mais totalement. Il faut appeler un chat, c'est des désertistes. Voilà. C'est des bédouins de la politique. C'est des Touaregs, là. Des Touaregs, ouais, sans râle. Mais tirez-vous les salafistes. Nous les Républicains, on n'a pas besoin des traîtres. Voilà ce que je dis.
Parmi les signataires, il y a alors les maires d'Orléans, de Quimper, de Nancy, d'Angers, d'Amiens,
oui, oui,
de
bon,
Roubaix.
Ben ça va, ça, on va pas se taper toute la liste des bleds tenus par des sans-couilles. Hein, on s'en fout du maire d'Angers, on s'en fout du maire de Quimper aux Républicains, parce que nous, Mme Julie, on est, oui, Monsieur Aliagas, on est un grand parti. On a des gens très bien, on a des têtes d'affiche. On a des gens de valeur, on a des Éric Ciotti, des Gérard Larcher, on a des Éric Ciotti aussi.
Non, mais attendez, on a des gens. Nadine Morano, vous avez dit deux fois Éric Ciotti.
Oui, pardon, en tout cas, j'ai oublié de citer Gérard Larcher.
Mais non, vous l'avez dit aussi, Gérard Larcher. On dirait qu'il reste plus grand monde. Hein.
Quoi, il reste plus. Mais arrêtez de colporter des infos comme ça. C'est pas vrai, on a du monde, on a des gens.
Bah,
on a Raymond Barbemolle. Raymond Barbemolle. On a une Huguette Pelleteuse, Pascal de Chouminet.
Mais enfin, c'est qui?
On
les connaît
jamais.
Mais c'est qui?
Mais c'est pas vrai. Mais avoir des interlocutrices qui connaissent rien en politique. Mais Raymond Barbemolle, c'est le maire, l'adjoint au maire de Noël-le-Fouzelier. Hein? Huguette Pelleteuse, c'est la secrétaire générale de l'association des accordéonistes champenois amateurs d'Andouillette. Et Pascal de Chouminet, le préposé aux affaires culturelles de la ville de Tougrasse sur les deux Glaviots. Oh, voilà. Donc vous le voyez, on a des têtes d'affiche chez les Républicains. Je vous le dis, on va sortir vainqueur des municipales de 2020. Je sais que ça vous plaît pas, mais pourtant ça sera la réalité parce qu'on a des vraies têtes d'affiche, on a des vraies têtes de vainqueur. Et oui,
c'est bon. Allez, merci Nadine Morano. Jérôme Rotten et Daniel Riolo, les deux chroniqueurs de RMC, ont été suspendus par leur direction. Leurs propos sur la victime présumée de Neymar ont été jugés inacceptables. Bonjour Aimé Jacquet, on aimerait votre réaction, Aimé.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai envie de dire à RMC, attention RMC, si RMC voulait vraiment suspendre tous vos chroniqueurs misogynes, il va falloir sacrément renforcer la corde à linge parce qu'il va y avoir du monde à suspendre. Hein.
Bon, il faut dire que les réflexions de Jérôme Rotten avaient mis en colère Marlène Schiappa. Hein.
Alors, les réflexions de Jérôme Rotten, c'est très gentil à vous, Madame Julie, très très charitable à vous d'utiliser le mot réflexion et Jérôme Rotten dans la même phrase. Hein. Cela dit, je vais vous dire une chose, je suis surpris qu'on soit surpris. Franchement, est-ce qu'on est un invite fine qu'elle crotte pour ses quadriceps? Non. Est-ce qu'on invite Michel Houellebecq pour ses ischios jambiers? Non. Et je crois qu'il faut laisser les philosophes philosopher et les footballeurs footballer. Hein, ah oui. Voilà, monsieur Apathy, d'ailleurs, opine du chef.
D'accord. Mais enfin, c'est un adulte responsable, Jérôme Rotten, non?
Mais là, vous en demandez trop, Mme Julie.
Oh bah quand même.
Jérôme, il s'est fait un claquage. Et c'est fréquent chez le footballeur. On peut demander d'ailleurs à Simès, hein. Et Michel, expliquez-nous.
Oui, bonjour mon cher Aimé, bonjour ma chère Marina, bonjour aux autres. Effectivement, c'est une blessure assez classique chez le footballeur professionnel, c'est le claquage de la réflexion, la déchirure de l'encéphale. On part sur une analyse sociologique sans échauffement, et là, c'est le drame, on se claque en disant une énorme connerie.
Bon, on est plus au courant. Merci à tous les deux.
Nous en prie.
L'équipe de France rencontre l'équipe d'Andorre ce soir, mais on va revenir sur sa défaite contre la Turquie. Bonjour Didier Deschamps.
Oui, bonjour. Oui, bon, écoutez, je crois qu'on le répète suffisamment souvent. Je pense qu'il n'y a pas de petites équipes à ce niveau de la compétition. Il n'y a jamais de match facile. Bon, à partir de là, Jérôme Lacroix, qui est dans ce studio, Didier. Confirmera. À partir de là, bon...
Didier.
L'important, c'est de rester concentré.
Non mais Didier, attendez, j'ai pas encore posé de question.
Ah oui, pardon. Bon, ben allez-y.
Alors, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de France contre la Turquie?
Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de France contre la Turquie?
Oui.
Oh ben, je dirais des nichons.
Non,
mais franchement, à la mi-temps, quand la Turquie menait 2-0, j'aurais dû faire rentrer des femmes. Non seulement elles jouent mieux au foot que les hommes, mais en plus elles sont souriantes et elles font 10 millions de téléspectateurs. Donc tout le monde y gagnait. Sinon, j'avais l'autre solution.
Ah, c'était
de demander aux filles de changer de sexe. Mais bon, en les prévenant la veille, je crois qu'on était trop juste.
Un petit peu juste, merci.
Même si M. Aliagas a de l'expérience là-dessus.
Qu'est-ce que vous êtes en train de signer?
Non, c'était juste une bêtise pour vous taquiner.
Déchirure de l'encéphale que j'entends là.
Merci Didier Deschamps. Allez, pour terminer, on va revenir sur l'affaire des chroniqueurs de RMC. Marlène Schiappa a saisi le CSA après les propos de Daniel Riolo et de son consultant Jérôme Roten. Ils ont laissé entendre que la jeune femme qui a accusé Neymar de viol n'était pas assez jolie. C'est de la deuxième division, ont-ils déclaré. On va faire un petit tour du côté de notre ami Jean-Jacques Bourdin pour voir ce qu'on en pense.
Allez. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Macho et CSA. Et on va parler de cette affaire en tentant, bien sûr, comme à notre habitude, d'être impartial et professionnel. L'affaire qui oppose ce grand journaliste de talent, qui est Daniel Riolo, et l'autre casse-couille de Marlène Schiappa. Et on va en parler avec un auditeur. Tiens, alors un auditeur, je regarde la fiche.
Au hasard.
Eh bien, c'est René. René, fidèle auditeur. Bonjour, René.
Ouais, bonjour, Jean-Jacques. Putain, c'est officiel. Alors, ça y est, on ne peut plus rien dire. Là. Donc, à peine tu dis, ouais, la fille, c'est un laideron. Le laideron, déjà bien beau que Neymar, excepté de la violer.
Oh là là, non,
que ça y est, il y a la Schiappa qui te tombe dessus. Non, mais, où on va là, oh. Franchement, aujourd'hui, des proches, ils pourraient plus dire que la femme, c'est quand même un peu une connasse.
Oh là. Aujourd'hui, des proches, ils pourraient plus dire que la femme, c'est quand même un peu une connasse. Je ne suis pas sûr. Vérifiez, René, mais je crois que des proches n'a pas dit tout à fait ça. On vérifiera. On demandera à Christine de vérifier.
Pas Christine, c'est une gonzesse. En plus, j'ai vu sur Internet, apparemment, elle est de 3e division.
Oh là là. Stop.
C'est pas faux. Alors, que pensez-vous, mon cher René, de Marlène Schiappa qui a saisi le CSA?
Mais franchement, elle est un peu conche, Schiappa. Franchement, maintenant qu'on sait que Neymar, il aime les moches, elle devrait plutôt prendre sa carte d'abonné au PSG. Hein.
Oh,
ouais, franchement.
Oh,
ah ben, attends, si elle chope le Brésilien, elle gagne au loto, la Marlène. Là, hein.
Si elle chope le Brésilien, elle gagne au loto, la Marlène. Merci René, en tout cas, d'incarner l'âme de RMC. C'est grâce à des gens comme vous et à Daniel Riolo que cette station garde son identité. Merci.
Merci Jean-Jacques Bourdin et bravo Nicolas.
Grande forme ce matin, Nicolas Canteloup. Et un grand merci aux auteurs Laurent Vassili, Arnaud Demanche et Philippe Cabrivière. Et bravo à vous, Julie. Ma chère Wendy Bouchard, à partir de 9h, votre émission Le Tour de la Question avec deux thèmes.
Absolument, bonjour chers amis. Premier thème, au lendemain de la marche blanche qui a rendu hommage aux sauveteurs de la SNSM, on se demande qui se cache derrière les 8000 bénévoles de cette association. L'an passé, ils ont sauvé 7000 personnes au large des côtes françaises. C'est souvent une affaire de famille, des dynasties de la mer. C'est bouleversant, on aura beaucoup de témoignages sur le sujet. Mm-hmm. Et à partir de 10h, en partenariat avec le Figaro Histoire, les nouveaux trésors de Pompéi. C'était il y a presque 2000 ans, la cité engloutie par l'éruption du Vésuve, et on attend encore encore beaucoup, beaucoup de choses sur cette ville engloutie au large, enfin dans la baie de Naples.
Ça s'annonce passionnant.
Merci.
À écouter.
À tout à l'heure.
Merci beaucoup Wendy Bouchard. À tout à l'heure à partir de 9h.
Et Monique attend vos appels dès maintenant au 39-21, c'est 50 centimes la minute. À suivre la météo et l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. 8h57, la météo avec Laurent Cabrel.
Des températures cet après-midi entre 15 et 20 degrés, 20 à Paris, 15 degrés à Clermont-Ferrand et même 13 à Brest. Donc il fera très frais. L'exception, Bastia et Nice entre 24 et 27 degrés. Les températures, donc des températures fraîches, de la pluie sur pratiquement toute la France, soit sous forme rapprochée, soit sous forme espacée. Mais enfin, ce sera un temps très maussade avec une petite amélioration qui se dessine pour dimanche prochain, sans savoir si elle sera définitive. J'en reparle à 10h.
Merci, à tout à l'heure.
On revient Nico sur les moments forts de cette matinale.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. À la une de l'actualité, la grève des urgences. Les syndicats descendent dans la rue, ils espèrent une forte mobilisation. Ils protestent notamment contre le manque de moyens et les sous-effectifs. Et l'hôpital public est au bord de la crise. Comme nous l'explique André Grimaldi, professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière. Il était mon invité à 7h45.
Il faut faire toujours plus avec des moyens qui doivent être contraints. L'urgence est au carrefour de ça, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui viennent parce qu'ils ne trouvent pas de réponse à leur demande en ville, alors qu'ils n'ont pas de soins très compliqués et qui pourraient être faits en ville. Plus grave encore, une fois qu'ils sont hospitalisés, on ne trouve pas de lit pour les coucher et ils restent aux urgences, parfois plus de 24 heures. Il y a plein d'études maintenant qui montrent qu'il y a une corrélation entre le temps sur les brancards et la mortalité intra-hospitalière.
Les adieux d'un immense champion. Le basketteur Tony Parker qui annonce sa retraite. Il se confiait en exclusivité ce matin au micro d'Europe 1 de Christophe Lamar. On l'écoute, c'était dans le journal de 8h.
Oh, ça fait longtemps que j'y ai pensé et je trouvais que c'était le bon moment. Je me suis longtemps préparé pour l'après-carrière et donc je suis excité pour le futur et pour tous mes projets.
Tony Parker, si je vous demande une image que vous retiendrez de votre carrière, alors je sais qu'il y a l'équipe de France qui vous tient à cœur, mais une image.
Une image, moi c'est dur de choisir une image.
Allez, deux.
Moi je dirais mes 4 titres à NBA et le titre de champion d'Europe.
Une image, une journée ensoleillée, même s'il pleut, on vous l'envoie en tous les cas. Des bonnes ondes, merci de votre fidélité, prenez soin de vous, à demain tout de suite. Wendy Bouchard arrive avec son émission Le Tour
de
la Question.
À demain,
Céline.